Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette conférence sur le thème de la vaccination. Je suis Bruno Saintot, jésuite, responsable du département éthique biomédicale au Centre Sèvres. Et à ce titre, je suis très, très heureux de vous accueillir, très honoré aussi de la présence du professeur Fischer parmi nous, qui nous parlera de la vaccination. En attente de Madame Anne-Marie Moulin, qui ne devrait pas trop tarder, je ne sais pas s'il y a des vaccinations pour le retard, je ne sais pas comment ça marche, mais voilà. C'est un thème qui s'inscrit en fait dans des préoccupations de notre cycle de conférences médecine, bioéthique et société. C'est évidemment une question médicale, la vaccination. C'est une question d'éthique. Pourquoi c'est une question d'éthique? D'abord, ça doit profiter à nous et ça doit profiter aussi à d'autres. Donc nous sommes engagés personnellement dans la vaccination, mais nous engageons la santé d'autres personnes dans la vaccination. Donc c'est aussi un problème donc, d'éthique médicale et aussi un problème d'éthique sociale et un problème d'éthique politique. Alors je ne sais pas si les candidats parleront de la vaccination dans les jours qui viennent, à mon avis pas trop, mais c'est quand même un sujet important d'éthique sociale et d'éthique politique. Donc à ce titre-là, je suis très très heureux de pouvoir parler de ce thème qui concerne la santé donc de tous les citoyens, donc c'est un problème d'éthique citoyenne. C'est un problème important qui a soulevé beaucoup de réticences, de débats, de controverses, de polémiques. Et donc je suis très très heureux, encore une fois, d'accueillir le professeur Fischer pour essayer de mettre un peu de raison, voilà, une raison scientifique. Et en attendant, Madame Anne-Marie Moulin mettra aussi une raison herméneutique, une raison historique, qui permettra aussi d'aborder cette question-là dans l'histoire, voir que les polémiques ne sont pas nouvelles. Voilà, donc merci de faire ensemble un travail de raison qui évidemment suscitera le débat, je l'espère, entre nous, mais à partir de cette tâche, cette noble tâche d'un débat en raison qui devrait faire partie de tous les grands débats d'éthique sociale, politique et aussi d'éthique biomédicale. Donc encore une fois, grand merci. Et je laisse la parole donc au professeur Jean-Noël Fissinger, que je remercie beaucoup aussi d'animer ce débat, membre de l'Académie de médecine, membre du Comité consultatif national d'éthique. Alors merci d'animer cette soirée, de présenter nos intervenants et d'animer les débats. Donc bonne soirée à vous. Merci.
Bien, merci Bruno pour cette introduction. Effectivement, je présenterai tout à l'heure mon ami Alain Fischer et peut-être Madame Moulin, qui pourtant m'a téléphoné ce matin pendant très longtemps et qui j'ai dit que c'était le Centre Sèvres. Elle m'a dit « mais je connais ». Bon, apparemment. Mais Alain me rassure en me disant qu'elle est toujours en retard. Quoi qu'il en soit, la soirée de ce soir s'appelle « Les vaccinations, réticences et enjeux ». Vous en avez entendu effectivement parler dans la grande presse. Il y a eu des pour, il y a des contre. Et le professeur Fischer a mené une concertation citoyenne sur le sujet. C'est pour ça que j'avais souhaité qu'il nous partage ce soir ses conclusions et son expérience. Alors, en introduction, je ferai un point rapide sur la question des vaccinations en France. Je ne peux que vous recommander la lecture du livre de Philippe Sansonetti, « Vaccin ». Philippe Sansonetti est professeur à l'Institut Pasteur et membre du Collège de France. Il a écrit cet ouvrage où il raconte parfaitement l'histoire de la vaccination. Et avant de donner la parole à Alain, je voudrais rappeler quelques chiffres qui expliquent l'importance du débat pour nous ce soir. En 1800, sur 1000 petits Français qui naissaient, 300 mouraient dans la première année. 100 ans plus tard, en 1900, il y avait encore 150 décès dans la première année dans les nouveau-nés français. En 2012, 3 nouveau-nés seulement sont morts pendant la première année. Alors vous me direz, tout ça c'est les progrès de l'hygiène. Certes, l'hygiène a évolué, mais ce sont surtout l'apparition des antibiotiques et des vaccinations. Alors quand on voit cette chute spectaculaire dans la mortalité des tout-petits, on s'étonne que 40% des Français disent qu'ils sont sceptiques sur l'intérêt des vaccinations. Et que lorsqu'on s'interroge, ou plutôt lorsqu'on interroge des jeunes couples de parents, 20% disent que si les vaccinations diphtérie, tétanos, polio n'étaient pas obligatoires, eh bien ils ne feraient pas vacciner leur nouveau-né. Alors vous me direz, c'est peut-être que les médecins traitants n'ont pas su convaincre les patients. Certes. Ah, ouais. Certes, c'est important. Certes, c'est important, Et je pense que les médecins traitants ont effectivement un rôle important, et c'est pour ça que je suis heureux que Olivier Paramel, qui est responsable du centre de l'ANEC, soit venu avec quelques étudiants. Vous avez un rôle à jouer pour convaincre les parents de l'importance de la vaccination. Alors avant d'aller plus loin dans les vaccinations, je voudrais vous rappeler une terminologie qui me paraît très éclairante. En termes de maladies infectieuses, on parle d'élimination et l'on parle d'éradication. Et ce n'est pas du tout pareil. Une maladie infectieuse est éliminée lorsqu'on ne voit plus de cas, par exemple en France, de poliomyélite. On dit que la maladie est éliminée. Mais le virus de la polio continue à circuler. Il est toujours dans les eaux courantes. Il est toujours susceptible de contaminer des gens qui ne sont pas vaccinés. La maladie n'a pas disparu, elle existe, et si on baisse la garde, eh bien les polios vont réapparaître. L'éradication, c'est une maladie qui a disparu. Eh bien, effectivement, la variole, qui avec Jenner a été la première vaccination, la variole a disparu. Parce que quelqu'un qui a la variole a toujours des signes cliniques. Parce qu'il n'y a pas d'animaux vecteurs de la maladie. On a fait disparaître la variole, et vous savez tous qu'on ne vaccine plus les petits-enfants contre la variole, il n'y a plus aucun risque. Donc un certain nombre de maladies infectieuses, virales ou bactériennes, ont été éliminées par la vaccination. Mais encore une fois, si on baisse la garde, si le nombre de personnes vaccinées est insuffisant, on risque des épidémies. Alors, qu'en est-il de l'état de la vaccination en France aujourd'hui ? Eh bien, la couverture vaccinale pour la diphtérie, le tétanos, polio, qui sont obligatoires et satisfaisantes, 95% des Français sont vaccinés. Pour la coqueluche, le pneumocoque et l'hémophilus B, on considère aussi que le nombre de vaccinés est satisfaisant et il n'y a pas d'épidémie de cette pathologie, encore que je reviendrai tout à l'heure sur la coqueluche. Les vaccinations contre l'hépatite B et la rougeole sont par contre insuffisante dans notre société, puisqu'on considère que la couverture vaccinale est autour de 80%. Vous avez tous entendu parler de la controverse qui avait amené M. Kouchner à supprimer l'obligation de la vaccination contre l'hépatite B, sous prétexte qu'on avait observé un certain nombre de cas de sclérose en plaques, et depuis tous les travaux scientifiques, mais Alain reviendra dessus, ont montré que c'était des coïncidences et pas des relations de causalité. Quoi qu'il en soit, la baisse de la population de vaccins contre l'hépatite B a diminué. Or, l'hépatite B, c'est une source de cancer du foie et de traitements qui sont non pas curatifs, mais qui simplement arrêtent l'évolution de la maladie. Je crois que particulièrement caractéristique pour les jeunes qui sont dans la salle est l'histoire de la vaccination contre la rougeole. En 2007, en France, on a 40 cas de rougeole. Mais le taux de vaccination baisse. Encore une fois, elle est en dessous de 80%. Et en 2008, brusquement, une épidémie apparaît. 500 cas de rougeole en France. De 2008 à 2015, 24 000 cas de rougeole sont recensés en France. Sur ces 24 000 cas, il y a 1500 pneumonies graves. Il y a 34 complications neurologiques. Ce sont des méningoencéphalites qui vont laisser de lourdes séquelles. Et 10 enfants vont mourir de la rougeole dans cette période de 2008 à 2015, du fait de la baisse de la couverture vaccinale. La maladie n'était pas éradiquée, elle était simplement éliminée par le vaccin. Elle est réapparue lorsque des sujets sains, des parents, ont pu transporter le virus et contaminer des enfants. Et ces enfants qui sont morts, eh bien, ils n'étaient pas vaccinés pour 80% d'entre eux, et 15%, les 20% restants n'avaient eu qu'un seul injection et pas le rappel. En plus, pour 7 sur 10, ils étaient immunodéprimés et c'était des enfants dont les défenses contre le virus étaient diminuées et qui étaient contaminés donc par des personnes qui étaient des vecteurs sains de la maladie. Donc la rougeole, cette maladie qu'on pense tous bénigne, qu'on a tous eu à ma génération, qui nous paraissait quelque chose de simple, eh bien ça a tué 10 Français et laissé des lourdes séquelles chez d'autres. Pour la coqueluche. La coqueluche, je vous ai dit que la vaccination était correcte. Le seul problème, c'est qu'il faut faire des rappels chez les adultes, ce que vous ne faites probablement pas. et que la vaccination chez le nouveau-né n'a lieu qu'à partir du deuxième mois. Si une grand-mère attrape la coqueluche parce qu'elle a oublié de se faire revacciner, qu'elle va embrasser son nouveau-né et qu'elle lui colle la coqueluche, eh bien, la coqueluche, c'est une maladie gravissime chez le tout-petit, et là, les pédiatres autour de cette table me confirmeront. Donc, encore une fois, pour les plus âgés d'entre nous, il faut renouveler votre vaccin contre la coqueluche. Reste de drame de la vaccination contre le méningocoque C, vous savez, c'est ces épidémies de méningite qui tuent en 24 heures, eh bien la couverture est considérée comme étant à 64%, donc totalement insuffisante, et je vous rappelle la campagne récente d'une vaccination généralisée à Dijon. Et puis, plus grave peut-être encore, le cas de la grippe. 50% des Français sont vaccinés contre la grippe. Or, la grippe, rappelez-vous que la grippe espagnole a tué plus de Français que la guerre de 14-18. Enfin, une découverte récente, la vaccination contre les papillomavirus, HPV, c'est une vaccination qui protège les femmes contre le cancer du col utérin. En 2008, 26% des adolescentes, puisque la vaccination est conseillée à l'adolescente chez la jeune fille, 26% étaient vaccinées. Ce taux est tombé à 14% en 2014. Or, c'est un vaccin qui protège contre le cancer du col utérin. Et dans certains pays, on recommande de vacciner non pas simplement les jeunes filles, mais aussi les adolescents. Il y a donc un constat assez dramatique que fait Sansonetti dans son livre sur l'état de la vaccination en France. Ceci a conduit le ministère de la Santé à demander à une sénatrice, Madame Hurel, de rédiger un rapport. Et à la suite de ce rapport, elle a donc demandé au professeur Alain Fischer, professeur d'immunologie à l'hôpital Necker, membre du Collège de France, et de réaliser une concertation citoyenne à laquelle Madame Moulin, qui nous a rejoint, a participé. Et donc, on leur a demandé ce soir d'aborder cette question de la vaccination sous ces deux aspects. Premièrement, y a-t-il des raisons scientifiques de mettre en cause l'intérêt des vaccinations? Le pédiatre immunologiste qui est Alain va vous traiter ce sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons sociétales? Et ça, Madame Moulin, qui est médecin mais aussi philosophe des sciences au CNRS, nous exposera son point de vue sur cette question. Quand nous aurons entendu les faits et les données, eh bien, Alain et Madame Moulin nous expliqueront leur rapport. Qu'ont-ils proposé aux autorités publiques? Et Jean Piquet, là, il pourra intervenir sur le sujet. Qu'ont-ils proposé à Madame la ministre comme mesure pour essayer d'améliorer cette situation qui, je le répète, 10 enfants morts de la rougeole, 30 avec des encéphalites, c'est quand même un tableau dramatique. Alain, à toi la parole. Mets-toi auprès de l'ordinateur.
Ah voilà, c'est bon. Je pense qu'il y a une petite lumière rouge cette allumée. Merci. La précédente fois, cela concernait les maladies génétiques, donc on change un tout petit peu de thème. Et Jean-Noël Fissinger a évidemment très bien introduit le sujet en exposant la situation française que je vais reprendre brièvement dans un premier exposé et avec une discussion donc sur cette éventuelle existence d'une controverse scientifique. En fait, autant vous donner tout de suite la réponse, il n'y a pas réellement de controverse scientifique. Il y a une controverse sociétale, et Anne-Marie vous en parlera dans un instant. Il n'y a pas de controverse scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion sérieuse sur le bénéfice-risque de la vaccination et des grands avantages que Jean-Noël Fissinger a rappelé il y a un instant. Mais il y a controverse parce que sont allégués, d'une part, le fait que les bénéfices ne sont pas aussi bons, aussi net que ce que Jean-Noël vient de vous rappeler, et que par contre, il y a aussi des inconvénients qui seraient éventuellement dissimulés ou pas très bien mis en avant. Il se trouve que cette semaine, samedi prochain, a lieu la marche pour les sciences dans tous les pays du monde. Ceci est une initiative qui a débuté aux États-Unis, qui se répand dans tous les pays quasiment. 500 marches pour les sciences auront lieu, dont une à Paris à 13h, si vous souhaitez vous y joindre devant le Jardin des Plantes côté gare d'Austerlitz. Mais j'en dis un mot ce soir parce que la vaccination, d'ailleurs cela a été écrit notamment aux États-Unis, un tout petit peu en France, est un très bon exemple, malheureusement, de la remise en cause de l'évaluation scientifique, du doute qui participe de l'évaluation scientifique, mais au moins du raisonnement fondé sur les faits et non pas sur les opinions. Et c'est un très bon exemple qui justifie, parmi bien d'autres naturellement, malheureusement, la nécessité aujourd'hui de marcher pour les sciences et pour la défense de la valeur des sciences dans une réflexion d'une société et l'établissement d'une politique au sein d'une société. Alors la vaccination, comme vous pouvez le voir sur cette première diapositive, ce n'est pas d'hier qu'elle est contestée, puisque dès son début, Jenner a commencé à vacciner en 1796. Vous voyez une caricature de l'époque où vous voyez Jenner... Les flèches passent là-bas. Oui, très bien. Jenner est là. Et donc, il est en train d'inoculer des personnes, et vous voyez que les personnes qui ont été inoculées, sur la droite, ici, leur poussent des cornes ou des têtes de vache, etc., etc. Donc, des choses relativement peu plaisantes, à vrai dire. Jenner a été très, très fortement attaqué, et Anne-Marie en parlera bien mieux que moi, depuis lors, et tout au long de l'évolution de la vaccination, Pasteur, etc., le XXe siècle, la vaccination a toujours été mise en cause par certains groupes, pour des raisons diverses, et ceci donc existe toujours aujourd'hui et implique des personnalités remarquables, au sens premier du mot. Donald Trump, puisque vous pouvez lire parmi d'autres un tweet qu'il a envoyé pendant sa campagne électorale, c'était avant qu'il soit président, vous pouvez lire donc « Healthy young child goes to doctor, gets pumped with massive shot of many vaccines, doesn't feel good and changes autism, many such cases ». Donc autrement dit, il reprend les accusations d'un Britannique qui s'appelait Wakefield sur le fait que la vaccination contre la rougeole est susceptible de provoquer l'autisme, et j'aurai l'occasion de vous redire que ceci est faux et est l'objet d'une falsification. Mais quand même, le président des États-Unis évoque cette question. Donc autrement dit, la contestation au plus haut niveau perdure à ce jour, et on peut dire que je pense que dans ce contexte que la vaccination peut être considérée comme un défi de santé publique pour notre société, parce que c'est un grand succès, je vais passer vite, parce que Jean-Noël a donné plusieurs de ces éléments et ça va la permettre de gagner du temps. Je me permets quand même de rappeler, parce que c'est un point majeur, c'est que la vaccination protège l'individu vacciné, mais protège le groupe, la collectivité, protège ceux qui sont fragiles, ne peuvent pas être vaccinés. Et certains des opposants ou même des hésitants à l'égard de la vaccination évoquent la liberté individuelle à l'égard du vaccin comme n'importe quel acte médical. Sauf que ce raisonnement ne tient pas la route, d'ailleurs c'est même validé sur le plan... légal par le Conseil constitutionnel, qui est que la protection peut être éventuellement instaurée sous forme d'obligation parce que c'est une protection collective et qu'il y a des personnes vulnérables qui ne peuvent pas directement bénéficier de la vaccination. Donc ce point est absolument central, à mon avis, dans la discussion de la vaccination. La variole est éradiquée, la diphtérie et la polio ont régressé, ne sont plus présentes en France. Voici des chiffres américains, nord-américains, je vais vous montrer des courbes françaises dans un instant, qui sont considérables. Avant vaccination, pour la poliomyélite, 16 000 cas par an, on tombe à zéro en 2002, coqueluche de 147 000 à 8 000, rougeole 500 000 à 37, ainsi de suite. Donc c'est quand même un bénéfice incontestable. Voici des courbes françaises qui ont été établies par Daniel Lévy-Brulle, qui est un médecin épidémiologiste qui travaille à l'Agence française de santé publique. Pour l'hémophilus B, qui est une bactérie qui peut provoquer des maladies mortelles chez les jeunes enfants sous forme d'étouffement par épiglottite, donc une infection sous la base de la glotte, ou bien par méningite sévère, vous voyez que la vaccination a été introduite en France en 1992, et ça c'est un grand succès, parce que ça fait partie des vaccins qui sont faits très tôt chez les nourrissons et pour lesquels la couverture vaccinale est bonne. Eh bien, il n'y a plus pratiquement de cas d'infections graves à hémophilus, quand même entre 1999 et 2014, 37 cas en France, tous survenus chez des enfants non vaccinés. La coqueluche, introduction du tétravalent avec la coqueluche en 1996, le nombre de cas qui était encore de plusieurs milliers avant, tombe presque à zéro, pas tout à fait à zéro. Jean-Noël a rappelé que malheureusement, chaque année encore en France, il y a quelques dizaines de cas de coqueluche de jeunes nourrissons, il y en a beaucoup plus. Enfin, un peu plus à d'autres âges, mais parmi les jeunes nourrissons, quelques-uns d'entre eux vont mourir de coqueluche. Donc c'est une infection grave. La poliomyélite, l'introduction du vaccin injectable, c'est 1958, le vaccin oral, 1962, obligation vaccinale contre la polio, 64, et vous voyez que le nombre de cas qui était de l'ordre de 50 à 100 par million d'habitants et par an est tombé à zéro depuis 1971, et il n'y a plus de cas de poliomyélite en France depuis, grâce à la vaccination. un travail qui est extrêmement rigoureux, un peu plus difficile à lire, mais qui a été fait aux Pays-Bas, où ils ont fait une enquête rétrospective sur une évaluation de la mortalité prévenue par vaccination à l'égard des vaccins contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, le polio et la rougeole, donc sur la population des Pays-Bas, en calculant donc les décès provoqués par ces infections avant l'introduction de la vaccination et après. Et on arrive ici au nombre de décès. Donc les chiffres paraissent relativement faibles parce que le travail a été fait de façon très très minutieuse et donc c'est à l'évidence une sous-estimation. Mais d'une façon absolument indiscutable, c'est le mérite de la grande rigueur méthodologique de ce travail, ils ont montré qu'au moins 9000 jeunes enfants néerlandais ont été sauvés au XXe siècle de la mort provoquée par ces 5 maladies infectieuses. Il y a d'autres vaccins, comme vous savez, et ceci, si on veut faire des calculs, comme aiment bien faire les épidémiologistes, a sauvé 147 000 années de vie avant l'âge de 20 ans. Mais au-delà des chiffres, c'est une démonstration rigoureuse, formelle, du bénéfice de la vaccination. Néanmoins, cette conquête, si on peut l'appeler ainsi, est fragilisée. Jean-Noël l'a très bien dit, donc je vais aller vite. Pour le méningocoque C, c'est un vaccin qui a été introduit en France il y a 5 ans. Vous voyez les taux de couverture vaccinale, ils sont très insuffisants pour protéger. Si bien qu'actuellement, il y a environ 110 cas de méningite à méningocoque C par an en France, 10 à 20% de mortalité, 20% de séquelles qui peuvent être horribles, comme des amputations des membres chez les nourrissons qui développent ce qu'on appelle le purpura fulminans, avec une atteinte vasculaire des extrémités qui survient en quelques heures et qui est vraiment terrible, mais aussi des séquelles sensorielles, surdité, des troubles cognitifs. Alors que d'autres vont mieux que nous, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a introduit la vaccination contre le méningocoque C en 1999. Et vous pouvez voir qu'elle l'a introduit à différents âges de la vie et que progressivement, mais à partir de 2005-2006, il n'y a plus de méningite à méningocoque C en Grande-Bretagne. Alors que je vous rappelle qu'il y en a plus de 100 en France et avec les effets que vous avez vus. Le vaccin trivalent rougeole, réveillon, uréole, la deuxième dose, qui est le rappel qui est fait vers l'âge de 2 ans, le taux de couverture est très insuffisant, 77%. Pour protéger contre la rougeole dont vous a parlé Jean-Noël, il faut un taux de couverture de 95%. Si bien qu'on a ces chiffres dont Jean-Noël vous a parlé, je n'insiste pas. Et infection et mortalité qui auraient dû être évitées si la couverture vaccinale était complète, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Vous avez vu les chiffres il y a un instant. On peut encore y ajouter la coqueluche, l'hépatite B, avec le drame lié à l'alerte entre la relation possible entre le vaccin contre l'hépatite B et la survenue de sclérose en plaques. Aujourd'hui, à l'âge de 15 ans, il n'y a que 43% des adolescents qui sont protégés. À l'âge où on est en risque, enfin ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, les plus jeunes, ont un taux de protection meilleur. Donc les résultats s'amélioreront dans 10 ans. Mais aujourd'hui, une majorité des adolescents ne sont pas protégés à l'âge où on se contamine par ce virus, par les relations sexuelles. Et l'hépatite B est un sérieux problème. C'est 1200 décès par an en France. On en parle très peu, malgré les alertes des médecins hépatologues. 1200 décès parce que chez certains, une minorité, mais une minorité importante, l'infection par le virus de l'hépatite B provoque des cirrhoses et des cancers. Donc ce sont des morts qui, à l'avenir, doivent pouvoir être évitées si on vaccine convenablement la population. Le pneumocoque, chez les sujets immunodéprimés, devrait être fait de façon systématique. Seuls 30% d'entre eux sont aujourd'hui correctement vaccinés. Et on a observé aussi des diminutions de couverture vaccinale. Le papillomavirus, tu en as parlé, je n'insiste pas, c'est une catastrophe. Presque, pratiquement aucune jeune fille, contrairement aux recommandations, n'est vaccinée. Seulement 14 ne sont vaccinés, 14% en 2015. Alors que, voilà, les statistiques globales, par région en France, vous avez la situation qui vous montre que la couverture vaccinale est un peu meilleure dans le nord que dans le sud. C'est ce qu'on retrouve de manière assez générale pour tous les vaccins. Et en particulier, les mauvais élèves en France, entre guillemets, sont les populations du sud-est de la France. Donc 14-15% de couverture contre plus de 80% en Grande-Bretagne. Ça veut dire que les Britanniques n'auront pas ou peu de cancer du col de l'utérus dans les 20, 30, 40, 50 ans qui viennent. Alors qu'en France, il y a environ 3000 cas par an de cancer du col de l'utérus. Et avec le nouveau vaccin contre HPV qui couvre 90% des souches virales qui peuvent provoquer ces cancers, on devrait pouvoir prévenir 90% de ces cancers. Et en plus, on peut prévenir des cancers de l'anus et des cancers oropharyngés. Donc c'est un désastre épidémiologique de santé publique de ne pas être capable de vacciner contre ces virus en France actuellement. Donc il y a une défiance, 40% de la population doute de leur sécurité. Cette enquête internationale a fait beaucoup de bruit. Dans le cadre d'enquêtes qui avaient été faites au préalable, avant notre travail est fait dans le contexte de notre travail, on montre que l'hésitation n'est pas liée qu'à la population en général, mais aussi aux professionnels de santé, puisque vous pouvez lire que plus de 15% des médecins, si on levait l'obligation contre le vaccin diphtérie, tétanos et polio, on va en reparler, mais tout à l'heure, ces vaccins, ce sont les trois vaccins obligatoires en France actuellement, 15% des médecins n'insisteraient pas sur l'importance de la vaccination. Et Jean-Noël l'a dit, 20 à 30%, ça c'est des données très récentes, des adultes âgés de 20 à 30 ans, donc ceux qui vont avoir des enfants bientôt, ne feraient pas vacciner leurs enfants. En tous les cas, c'est ce qu'ils ont déclaré dans une enquête, si l'obligation vaccinale était levée. Donc ce qui fait frémir potentiellement sur les risques. Et je voudrais ajouter une anecdote. Ah, j'ai besoin de mon petit papier. Même à l'INSERM. Vous savez que l'INSERM, c'est l'Institut National de la Recherche Médicale, donc a priori des personnes averties des sciences. J'ai reçu un mail, je vais me permettre de prendre 30 secondes pour vous lire cela, parce que je trouve que ça illustre bien et ça va introduire ce que va vous dire Anne-Marie ensuite. Une collègue que je connais bien qui s'appelle Karine Tarte, qui est immunologiste à Rennes, professeure à l'Université de Rennes et qui dirige une unité de recherche de l'INSERM. Et elle fait la recherche sur l'immunologie humaine, donc elle travaille avec des globules blancs issus du sang de donneurs. Et dans son laboratoire, une étudiante s'est piquée accidentellement, et du coup, de façon très responsable, Madame Tarte lui a demandé « Mais est-ce que tu es, toi, l'étudiante vaccinée contre l'hépatite B ?» Réponse « Non ». Elle fait partie des 60% qui ne sont pas vaccinés à cet âge-là. Heureusement, elle n'a pas été contaminée, mais elle s'est dit du coup, si cet accident avec un risque potentiel de contamination par l'hépatite B est arrivé dans mon laboratoire, je vais vérifier ce qui se passe auprès des autres personnes du laboratoire et je vais demander à toutes les personnes non vaccinées de se vacciner. Et pour ça, du coup, elle dit, je vais aller un peu plus loin, je vais contacter les autorités de l'INSERM et voir ce qu'on peut faire. Elle a contacté les autorités de l'INSERM et la conseillère en prévention de la délégation Grand Ouest de l'INSERM lui répond la chose suivante. J'ai eu le docteur X, responsable du bureau de coordination de la médecine de prévention de l'INSERM au sujet de la vaccination. Donc quelqu'un qui est en position centrale à l'INSERM sur les questions de prévention de la vaccination. Et il dit, ce docteur, le vaccin de l'hépatite B n'est pas obligatoire en enseignement supérieur et recherche, mais simplement recommandé, ce qui est légalement exact. Contrairement au personnel soignant des hôpitaux, où là c'est une obligation, c'est toujours exact. Elle m'a alerté, c'est une femme ce docteur, mais peu importe, elle m'a alerté sur le fait que la vaccination était un sujet sensible pour de plus en plus de personnes et qu'il ne fallait surtout pas l'imposer au sein de l'unité de recherche. Des gens qui travaillent avec du sang, donc susceptibles de se piquer et de se contaminer. Encore moins procéder à une vérification, à une vaccination au sein de votre unité de recherche. Votre responsabilité, elle est directrice de l'unité, serait alors engagée en cas d'accident post-vaccinal, ce qui est rare, mais arrive. C'est face à l'INSERM en avril 2017. Je pense que c'est la plus belle, enfin, ou la moins belle possible illustration de notre sujet de ce soir et de ce dont va vous parler Anne-Marie dans un instant. Donc ceci a entraîné, je vais passer la parole à Anne-Marie, c'est dans ce contexte donc, que la ministre de la Santé nous a demandé de travailler avec cette concertation citoyenne à la suite de rapports de Madame Murel. Un groupe a travaillé, je passe là-dessus. Et la méthodologie, c'est d'avoir réuni des jurys de citoyens et de professionnels de santé, avec une méthodologie qui est très rigoureuse, de personnes, entre guillemets, naïves à l'égard de la vaccination, qui ont été formées, et ensuite ont interrogé qui le souhaitait et fait des propositions qu'ils nous ont remises, et dont nous avons discuté avec eux, nous nous sommes inspirés pour effectuer in fine nos recommandations dont on parlera tout à l'heure. On a aussi fait appel à une plateforme internet, à des enquêtes d'opinion, j'en ai déjà parlé, à des auditions. Et l'objectif, c'était la lettre de mission de la ministre, c'était de répondre aux questions comment améliorer la confiance, comment améliorer la couverture vaccinale. Donc, dans le bilan, je vais terminer par ça pour donner la parole à Anne-Marie, il y avait la question, existe-t-il une controverse scientifique ? Parce qu'après tout, s'il y a 40% de la population qui hésite, peut-être que c'est à bon escient et que le rapport bénéfice-risque n'est pas aussi favorable que ce que certains disent, certains accusant même ceux qui le disent d'être partie prenante, ayant des formes de liens, des conflits d'intérêts, en défendant les intérêts de l'industrie du médicament, les quelques industriels qui veulent bien fabriquer des vaccins, et heureusement qu'ils sont là, sinon nous n'aurions pas de vaccins. Donc la situation, en deux mots, c'est de dire que ne pas oublier que les vaccins sont des médicaments particuliers, mais ce sont des médicaments, ce qui veut dire d'ailleurs que leur production, qui est plus complexe que celle des molécules chimiques, est soumise à une législation extrêmement rigoureuse quant à la fois à leur sûreté et leur efficacité, et que l'analyse des effets de la vaccination, comme toute analyse d'effets de mesures en médecine, c'est une analyse bénéfice-risque. J'évite la diphtérie en vaccinant contre la diphtérie, mais est-ce que je prends un risque en vaccinant toute la population contre la diphtérie ? Et il faut que la balance, évidemment, soit favorable. Donc, il y a au décours des vaccinations, peuvent survenir des événements secondaires et des effets indésirables. C'est une notion importante. Événement secondaire, c'est n'importe quel événement qui survient chronologiquement au décours d'une vaccination. Mais le fait qu'un événement, quel qu'il soit, qui peut être extrêmement grave ou bénin, sclérose en plaques, survient, une poussée de sclérose en plaques survient 6 semaines après un vaccin contre l'hépatite B, ne démontre pas une relation de cause à effet. Elle indique simplement une succession chronologique. Donc les éléments dont il faut tenir compte, et il y en a quelques-uns, heureusement très rares, ce ne sont pas des événements secondaires, sans lien de cause à effet, simplement de lien chronologique, mais des effets indésirables, c'est-à-dire le fait que le vaccin lui-même provoque un événement qui est souvent bénin, mais qui pourrait être éventuellement plus grave. Il y a quelques exemples. Par exemple, la vaccination contre la grippe, dans des cas exceptionnels, peut donner une maladie grave qui s'appelle la narcolepsie. Donc on sait qu'il peut y avoir des effets indésirables. La vaccination n'est pas un produit absolument à 100% sûr. Le point important, c'est que très fondamentalement, si on interroge les experts, que l'on lit la littérature scientifique, qui est énorme, l'analyse bénéfice-risque est très en faveur de la vaccination, même s'il peut y avoir de temps en temps des risques. Alors, en pratique, en France, on a deux grandes controverses. La première, qui concerne les adjuvants aluminiques. Les adjuvants sont des substances qu'on ajoute à des vaccins pour les rendre efficaces lorsqu'il s'agit de vaccins qui ne sont pas vivants, donc pas composés de bactéries ou de virus, mais substances indispensables pour induire un certain type d'immunité naturelle. Et l'adjuvant le plus souvent utilisé sont des sels d'aluminium. Horreur, l'aluminium est toxique. Ce qui est vrai à forte dose, indiscutablement. Il faut savoir que ces adjuvants aluminiques ont été découverts de façon empirique et sont utilisés il y a même plus de 100 ans. Et donc, ça veut dire que plusieurs milliards, je dis bien milliards de personnes dans le monde ont été vaccinées avec des vaccins contenant des sels d'aluminium. Et c'est le cas de la majorité des vaccins qui sont aujourd'hui pratiqué en France, notamment par exemple un vaccin qui fait un peu polémique sur ce sujet, qui est le vaccin dit hexavalent, qui est administré aux nourrissons. Hexavalent, c'est un vaccin qui contient les valences donc, qui protègent contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l'hémophilus B, dont j'ai parlé tout à l'heure, la coqueluche et l'hépatite B. Okay. Un médecin en France a émis une alerte il y a une vingtaine d'années, un médecin qui a pignon sur rue, c'est un médecin universitaire, il travaille à l'hôpital de Créteil. Il a émis une alerte, et il est raisonnable d'avoir une alerte si quelque chose pose problème, c'est qu'il s'est aperçu que des personnes qui ont reçu ce type de vaccin à l'âge adulte, pas chez des enfants, avaient des dépôts d'aluminium qui persistaient au niveau du point de vaccination. Ceci est absolument exact. Jusque-là, pas de souci. Le souci, c'est que de fil en aiguille, et depuis maintenant bientôt 20 ans, ce médecin écrit et dit de façon assez publiquement répandue le fait suivant, que la présence d'aluminium au niveau du point de vaccination déclenche une réaction toxique responsable au minimum d'un certain nombre de fatigues chroniques, donc des personnes qui sont fatiguées, des maux de tête, qui ont une difficulté de travailler, des difficultés de concentration, voire des pathologies neurologiques plus sévères, type jusqu'à maladie d'Alzheimer. Il est exact qu'il y ait des personnes qui aient des syndromes de fatigue chronique, malheureusement il est exact qu'il y a beaucoup de personnes qui aient des maladies d'Alzheimer, et il est exact que ces personnes ont été vaccinées. Quasiment tout le monde a bien reçu des vaccins dans sa vie. Et il est exact que certains d'entre eux ont cette fameuse présence d'aluminium qui est restée un peu au coin de l'épaule. Sauf que ce qui n'est pas exact, en tous les cas, ce qui n'a pas été démontré à ce jour, c'est qu'il y a une relation de cause à effet entre les événements. Quoi qu'en dise ce médecin, qui est le seul au monde à le dire. C'est une polémique franco-française qui n'est pas présente ailleurs, il faut le savoir. Mais qui est très présente dans les médias et qui est très présente surtout dans l'esprit de la population, je suis sûr de certains d'entre vous, et de certains professionnels de santé, et qui rend compte de l'hésitation, après les mécanismes, Anne-Marie nous le dira mieux tout à l'heure, comment ceci arrive à se greffer dans nos consciences. La seconde polémique en France, on en a parlé, c'est l'hépatite B, parce qu'il y a eu, par conjonction d'une augmentation on a répandu la vaccination contre l'hépatite B de façon un peu discutable, mais du coup, statistiquement, quand il y a eu plus de personnes vaccinées, les personnes qui ont développé parmi les jeunes une sclérose en plaques, plus d'entre elles avaient eu une vaccination contre l'hépatite B, donc ce qui pouvait donner l'apparence qu'il y ait un lien de cause à effet. Depuis cette alerte, donc, qui avait déclenché la réaction de Kouchner à l'époque et qui a créé donc, une certaine psychose à l'égard du vaccin contre l'hépatite B, il y a eu minimum 8 études scientifiques dans le monde qui n'ont pas été capables de mettre en évidence de lien. On ne peut jamais démontrer strictement qu'il n'y a pas de lien. Mais on n'a pas mis en évidence de lien dans 8 études qui concernent un très 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 grand nombre de personnes. Donc il est pour le moins douteux de penser que ce lien puisse exister, mais cette polémique persiste. Elle est encore une fois franco-française, à peu près nulle part ailleurs dans le monde on en parle, mais en France on continue d'en parler. A contrario, en Grande-Bretagne, il y a eu la fameuse polémique donc, déclenchée avec une falsification par M. Wakefield, indiquant que le vaccin contre la rougeole pouvait provoquer l'autisme, ça a entraîné une chute transitoire de la vaccination. Et aujourd'hui, donc, c'est repris, relayé par M. Trump. Mais curieusement, cette polémique-là, elle est quasiment absente en France. Donc on pourrait dire, d'une certaine paraphrasant Pascal, ici, je trouve que c'est plutôt bienvenu, c'est vérité en deçà ou au-delà, pas des Pyrénées, mais de la Manche, n'est-ce pas, comme vous pouvez le voir. Voilà. La défiance, donc, elle est utilisée par les hommes politiques. On l'a vu avec Trump. Il y a eu une réponse très, très forte de la communauté, à la fois médicale, scientifique et d'un grand nombre d'associations de citoyens aux États-Unis qui ont écrit une lettre en date du 7 février à M. Trump où il rappelle en conclusion « Put simply, vaccines are safe, vaccines are effective, vaccines save lives ». Our organizations, c'est 177 organisations nationales plus des centaines d'organisations d'État. Donc ces organisations « Welcome the opportunity to meet with you », la rencontre n'a jamais eu lieu à ce jour, « to share the robust, extensive scientific evidence supporting vaccine safety and effectiveness ». Bon, il y a aussi des soucis aux États-Unis. Et en France, je vais terminer par cela, parmi les 11 candidats à l'élection, il y en a 4, je vais vous donner les noms, qui ont, d'une façon directe ou indirecte, défendu les positions de M. Joyeux. Donc, peut-être que vous ne connaissez pas M. Joyeux, j'espère. M. Joyeux est un collègue, professeur de médecine, à la retraite, cancérologue, chirurgien, donc absolument aucune compétence dans le domaine de la vaccination, qui a travaillé à Montpellier et qui a un blog et qui répand de façon régulière depuis des années et des années le fait que, les vaccins sont dangereux, qu'il ne faut pas vacciner les enfants avant l'âge de 2 ans, par exemple, et en gros, moins on vaccine, mieux on se porte. Donc, enfin, il raconte que des âneries. Il vient d'être, je le dis très clairement, il vient d'être radié de l'ordre des médecins. Enfin, la radiation est en appel. Néanmoins, il a été radié de l'ordre des médecins quand même. Et il y a 4, non, je pense que c'est aussi un autre symptôme de ce dont Anne-Marie va parler dans un instant, 4 sur 11 candidats qui, d'une façon ou d'une autre, défendent les positions de Joyeux. Ce sont Mme Le Pen, dont le conseiller santé a très clairement dit, j'ai lu le texte de son exposé, qui a dit qu'on attaque de façon injuste M. Joyeux. C'est M. Dupont-Aignan. Il faut savoir que le conseiller santé de M. Dupont-Aignan s'appelle Serge Rader. Il est pharmacien. Il y a toujours des médecins et des pharmaciens dans ces affaires. Est un des grands acteurs anti-vaccin. Lui, ce n'est pas l'hésitation, c'est de l'anti-vaccin. Et donc, c'est le conseiller santé du Dupont-Aignan. Donc, lui, clairement, il prend position liberté vaccinale, etc. Et ensuite, ce sont deux petits candidats, entre guillemets, Asselineau et Cheminade. Donc, quand même, 4 sur 11 candidats qui évoquent ces questions. Je m'arrête là. Je pense qu'il est temps qu'Anne-Marie prenne la parole pour évoquer les questions. Ouais. Il faut que je vais fermer la mienne. Il faudra y revenir tout à l'heure pour les... Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je ferme. Tac. Voilà.
J'essaye. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Hein.
On franchit la première étape.
Ça s'appelle Kingston.
Ça s'appelle Kingston.
Oui, c'est ça. Elle s'appelle Lié. Vous la voyez?
Non.
Faut la mettre côté. Attendez, pardon. Bien. Peut-être de l'autre côté. La mettre dans le trou.
Bruno, viens nous aider, là.
La métaphore de la vaccination peut également s'appliquer à l'informatique.
Alors.
Voilà, bravo.
Kingston. Vous avez deviné le titre.
Très intuitif.
Je vais mettre un peu de côté pour voir, pour former.
Je vais débarrasser mon bar.
Pour jouer. Je vois ce qui. Ah oui, d'accord, c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord. Bien, bon, bonjour à tous. Je suppose que c'est comme ça. Oui. Alors d'abord, je vais rendre hommage aux jésuites, parce que c'est quand même les jésuites qui, au XVIIIe siècle, ont parlé de l'inoculation de la variole. Le père d'Entrecolle, dans les lettres édifiantes et curieuses, a expliqué qu'en Chine, on prévient la variole, qui est une maladie très grave, en injectant, en faisant inhaler de la poudre de pustule séchée dans les narines de la personne, vous voyez, qui a cette attitude un peu de martyr, je dirais. Alors, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est non seulement que c'est quand même, ce sont les jésuites, avec leur esprit curieux qui, en Chine, ont entendu parler de cette méthode, qui l'ont trouvée intéressante. Au passage, un grand partisan de cette inoculation de la variole, Voltaire, mais pas vraiment un partisan des jésuites, les a lus et en a parlé. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dès cette époque, on voit bien deux éléments qui, je pense, sont toujours présents avec nous. Le fait que derrière ce procédé, pour déclencher, en fait, le principe, c'est de déclencher une petite variole qui protège contre la méchante variole. Et il y a derrière une idée, d'ailleurs qui est explicite chez le père jésuite, à savoir que la variole n'arrive qu'une fois dans la vie, donc si on a la chance d'avoir artificiellement une variole bénigne, on est protégé pour toute la vie. Ça, c'est une idée scientifique qui, quelque part, est encore avec nous aujourd'hui. Mais il y a une deuxième idée dont on pense qu'elle n'est plus là, alors que je pense qu'elle est toujours là, c'est le fait que l'inoculation de la variole, vous n'en avez qu'une faible idée avec cette gravure, effectivement, qui est d'imagination, c'est inséré dans un rituel religieux, qui n'est pas seulement, qui n'est même pas aux mains des médecins, qui est aux mains des religieux et qui s'accompagne de gestes de dévotion propices pour permettre la protection des génies ou des divinités. Et par conséquent, cela suppose, en même temps qu'une adhésion à une idée qu'on peut appeler scientifique, une adhésion à un geste, un rituel propitiatoire et une relation de confiance envers la personne qui est au fond l'instrument de la divinité. C'est là quelque chose auquel on pense beaucoup moins aujourd'hui. D'ailleurs, chose curieuse, quand je me suis intéressée il y a longtemps à ces questions d'inoculation, mes collègues qui travaillaient en Chine m'avaient envoyé cette photo, qui est une photo, c'était dans la Chine, de Mao, avec un temple à Pékin, où il y a des divinités auxquelles il y avait encore quelques vieilles personnes qui venaient sacrifier et brûler des baguettes d'encens pour se protéger contre la variole. Si parmi vous, il y en avait qui pouvaient me dire où est cet édifice religieux, donc il y a 30 ans, et s'il sert encore, ou si, comme certains temples à la déesse de la variole en Inde, il a été réemployé pour d'autres fins. C'est une question. Ce que je voudrais donc souligner, c'est ce double aspect de science et de croyance. Et c'est, je pense, à cela que nous avons affaire aujourd'hui. La vaccination n'est pas seulement une affaire de controverses scientifiques. Et le fait de démontrer qu'il n'y a pas de controverses scientifiques ne suffit pas quelque part. Je saute évidemment à Jenner, avec une représentation tout aussi imaginaire de Jenner, lorsque ce médecin britannique protège contre la variole avec l'inoculation d'une maladie proche, la variole de vache, la vaccine. À cette époque, vaccination veut dire vaccine, donc protection exclusivement contre la variole. Ce qui est important, une deuxième chose, c'est de dire que très vite, l'État a joué un grand rôle dans cette histoire de vaccination. Déjà, en ce qui concerne la Chine, les avocats de la Chine faisaient valoir que dès le XVIIIe siècle, les États, les responsables chinois avaient pris en main cette question de protection de la population. Et Joseph Needham, qui était un fervent pro-chinois entre les deux guerres et après, était persuadé donc que la Chine avait été la première à introduire une sorte de protection étatique. Autrement dit, l'État a joué un grand rôle dans la vaccine et plus tard dans la vaccination. Et ce qui est en cause, ce n'est pas seulement le principe de la vaccine, c'est l'obligation. À l'État est associée l'idée d'obligation, de pression sur les citoyens. Alors au début, au moment de Jenner, les dirigeants, les grands dirigeants, Napoléon en particulier, ont été absolument passionnés par la vaccine, qui leur paraissait un instrument de nature à protéger les populations et à leur donner ce qu'ils souhaitaient, une armée nombreuse et des citoyens pour faire des États forts. L'exemple le plus connu est le roi d'Espagne, qui envoie un médecin sur un bateau pour vacciner toute l'Amérique latine et jusqu'aux Philippines dans une croisière ou croisade, comme vous le voudrez, on appelle un peu les deux, pour apporter la vaccine aux populations. À cette époque, les populations semblent, car évidemment c'est des comptes rendus indirects, se précipiter par milliers s'offrir à la vaccination, tellement elles ont été effrayées par la variole. Mais ce qui est important, c'est que ce caractère d'obligation a très vite été très mal accepté par la population. Pourquoi ? En partie parce que finalement, quand la vaccination est obligatoire, elle s'applique essentiellement aux pauvres. C'est-à-dire que les mesures de coercition s'appliquent pour la population la plus fragile, on dirait aujourd'hui la plus vulnérable. Et d'ailleurs, Pasteur a parfois fait des remarques du genre « il faut que la vaccination soit obligatoire parce que les citoyens, les pauvres, la plupart du temps, ils ne se soucient pas de leur santé. Les bourgeois, ils s'en soucient. Par conséquent, on peut leur faire confiance, et là, il avait tort, pour se faire vacciner. » Mais on voit bien comment, sur la rue, il y a des équipes qui vaccinent comme ça à la volée et ça suscite un grand mécontentement. D'autre part, les mesures d'obligation de la vaccine, comme en Angleterre après 1853, sont assorties de sanctions. On envoie les gens en prison. J'étais frappée à une émission télévisée récente d'entendre dire les gens « mais on va aller en prison ». À quoi j'avais répondu « non, il y a peu de chances qu'on vous envoie en prison ». Mais cette peur de la prison, effectivement, la prison et les sanctions, les amendes étaient appliquées essentiellement aux pauvres, puisque les riches trouvaient toujours moyen de l'éviter ou de court-circuiter l'obligation. Autre exemple, à Rio, au Brésil, quand la loi en 1903 fait du vaccin antivariolique une obligation, il y a des émeutes pour toutes sortes de raisons, car c'est toujours un ensemble de raisons qui soulèvent la population, et pendant une semaine, on se base sur les barricades à Rio et une partie des gens finira par être déportée. Une partie des manifestants sera déportée dans l'île du Cobra où elle meurt de la fièvre jaune. Enfin, si on saute à l'URSS, l'URSS a une politique vaccinale extrêmement active. Là, vous avez une affiche qui dit « Être vacciné est le devoir de tout citoyen » en 1919, 2 ans après la Révolution. Un des résultats de la chute du mur, c'est qu'on se vaccine très peu dans la Russie d'aujourd'hui. Et mes amis et collègues russes m'ont expliqué « Non, on ne va pas se faire vacciner, ça rappelle le bon vieux temps de l'Union soviétique. Non, merci. » Donc on voit bien que ce sentiment antivaccinal, là, ne dépend pas d'une controverse scientifique, mais d'un refus d'un passé proche et considéré comme très abusivement contraignant. Alors les Français. Bien, les Français, dans cette histoire, eux ne se font pas particulièrement remarquer. Je pense qu'ils ont eu une affection vis-à-vis de la vaccine et de la vaccination et des vaccins qui s'explique en grande partie par leur histoire particulière. Les vaccins, c'est d'abord Pasteur. Et d'ailleurs, à juste titre, puisque c'est Pasteur lui-même qui a inventé le terme de vaccin, ou plus exactement, qui a donné à ce terme, qui voulait dire simplement qu'il se référait à la variole, il lui a donné son acception générale, à savoir, je cite, en 1883, un virus, ça veut dire poison à l'époque, c'est pas virus au sens moderne, un virus vivant atténué et protecteur. Donc c'est lui qui a inventé ce terme au sens général du mot et qui sera suivi par la vaccination contre la rage en 1885 chez le petit Joseph Meister. Et avec les vaccins, Pasteur a promis quelque chose qui est quand même encore fait partie à la fois de l'histoire et de la légende, c'est la victoire contre la mort. Vous avez tout près d'ici ce monument édifié par Falguière en 1904 qui représente Pasteur qui trône sur un monument. Vous avez les différentes facettes de son œuvre qui sont évoquées sur des bas-reliefs. Et sur un bas-relief, vous voyez une mère qui tient sa fille chancelante et la mort laisse tomber sa faux. Donc, c'est bien l'ère de la grande promesse. Elle semble se concrétiser toujours par étapes, puisque en 1954, on a le vaccin tué de Jonas Salk. Vous voyez les enfants qui font la queue pour avoir le vaccin lors de l'essai vaccinal, qui a préludé à la vaccination de masse dans tout le pays. Et Jonas Salk a eu ce mot très beau. Il a dit « on ne brevette pas le soleil ». Autrement dit, il a refusé de breveter à son compte le vaccin et il a dit « on ne brevette pas le soleil ». J'aime beaucoup cette phrase, je l'avoue. Et l'obligation. L'obligation vaccinale en France, qui pose aujourd'hui problème, c'est une obligation qui portait sur 5 vaccins. La variole, évidemment, n'est plus de saison. Le BCG a cessé d'être obligatoire sauf dans certaines catégories de la population où il est proposé depuis 2003. Il reste l'antidiphtérique, l'antidéphtanique, l'antipolio et la fièvre jaune en Guyane. Bon, le problème est que ces 3 vaccins ne correspondent plus au spectre de maladies infectieuses qui hantent le citoyen, alors qu'il y a donc une contradiction évidente entre 3 vaccins qui pour lui correspondent à des maladies quasiment disparues, quoiqu'en fait on a encore quelques cas de tétanos en France, mais les gens ne le savent pas, et par contre les vaccins qu'on leur vante ouvertement, etc., ne sont pas obligatoires comme la rougeole, les oreillons ou l'hépatite B. Donc il y a quelque chose qui est difficile à comprendre et qui tient, comme je viens d'essayer de vous le montrer, à l'histoire. Alors, je passe sur les effets de la vaccination, parce que je pense qu'Alain a tout dit sur le sujet, sur le bénéfice-risque. Alors, qu'est-ce qui a changé? Moi, mon interprétation, pourquoi le cas français est particulièrement net, à savoir que si tous les États européens, il semble y avoir un problème d'hésitation vaccinale, c'est le mot pudique qu'on emploie, elle est particulièrement marquée, ou plus exactement, le tournant était particulièrement marqué en France. Et je pense que c'est venu du fait que les Français étaient particulièrement attachés, je dirais émotivement, historiquement, à ce rêve des vaccins associés au recul des maladies infectieuses, à l'éradication des principaux fléaux, etc. Et ils rêvaient, ils croyaient aux vaccins qui devaient être à la fois 100% efficace, j'ai énuméré les sans effets secondaires fâcheux, indolore bien sûr, gratuit si possible, dirigé dans l'avenir contre toutes les maladies et procurant évidemment une immunité durable. Alors, les vaccins contemporains, je ne rentrerai pas dans le détail, ne correspondent pas tout à fait à cet idéal, puisqu'on est bien obligé quand même de parler d'effets secondaires, d'autant plus que dans la population, la grande population, il y a des personnes qui peuvent avoir, y compris peu de temps après la naissance, des déficits immunitaires, des particularités qui font qu'il y a un certain nombre d'accidents faibles, mais réels, et d'effets fâcheux, y compris des éruptions, des petites douleurs, etc., qui aujourd'hui ne sont plus tolérées. Les citoyens ont changé, les sociétés aussi. J'aime bien cette carte postale qui date des années 60, et vous voyez bien que la communication avec le grand public ne peut plus se modeler sur cette image. Pas d'hésitation, vaccination. Mais si, justement, hésitation, le mot était employé là, dans un autre sens, les populations hésitent. Et ce n'est pas en disant pas d'hésitation que l'on convainc les gens. Pourquoi ? Le citoyen, d'abord, veut être informé. Et il le peut, puisqu'il a à sa disposition, avec les technologies modernes, tout un tas d'outils. Mais c'est vrai que ces outils ne sont pas hiérarchisés ni facilement vérifiables. Et quand vous vous mettez sur, vous tapez vaccination, y compris avec mon nom, j'ai fait l'expérience, je suis citée abondamment uniquement par les adversaires de la vaccination. C'est un peu vexant, mais c'est comme ça. Alors, il revendique aussi le droit à la santé. On est tous d'accord là-dessus, l'OMS l'a dit, mais c'est rentré dans un certain nombre de constitutions et les Français militent à juste titre pour le droit à la santé. Mais ils militent aussi pour son autonomie et son droit de décider personnellement. Et c'est là que nous aboutissons à un bilan de société. Il ne fait plus confiance. Il ne fait pas confiance à l'État. Nous sommes en période électorale, on le voit bien. Il fait moins confiance aux professionnels de santé, moins aux experts et aux scientifiques. On parle d'une crise de la croyance en la vérité scientifique et la marche pour la science, quelque part, est une réponse à cet état d'esprit. Et il fait encore moins confiance aux compagnies pharmaceutiques qui actuellement assurent la production des vaccins de façon exclusive. Et même si elle est entourée de précautions, de standardisation et de contrôle, etc., comme l'a dit Alain tout à l'heure, il a évidemment un certain nombre de scandales en mémoire qu'il peut transposer aux vaccins. Enfin, les vaccins ne sont plus vécus dans la même ambiance de fabrication des citoyens qu'autrefois. L'école, l'armée. L'école vaccine beaucoup moins, la médecine scolaire est en déshérence. Les proviseurs n'ont pas envie d'avoir des ennuis avec les familles et font profil bas. Quant à l'armée, elle ne forme qu'une minorité de professionnels et tous les jeunes ne passent plus par elle. On peut, à cet égard au moins, le regretter. Quant aux nouveaux vaccins, les nouveaux vaccins ont une image moins claire. J'ai parlé tout à l'heure de la disparition du spectre de la tuberculose, de la polio, etc. Les nouveaux vaccins sont plus difficiles à comprendre. En particulier, le vaccin HPV contre le cancer du col est un vaccin qui s'adresse à la petite fille avant la puberté dans la perspective d'un rapport sexuel qui induira une infection. Tout ça, c'est complexe et c'est quelque part, les parents ont du mal à aborder la sexualité de leurs enfants et à se projeter dans un avenir qui leur paraît relativement problématique, sans parler du fait que ce vaccin peut aussi s'adresser aux garçons. Et là, on rentre dans le problème de l'homosexualité potentielle d'un enfant impubère. Et là, on se heurte à tout un nœud de complications dans les rapports avec les parents. Et puis, malgré tout, je dirais quand même à Alain, il y a des questions scientifiques, il y en a toujours eu. D'abord, il y a eu un certain nombre d'accidents au cours de l'histoire de la vaccination. Ça n'est pas un long fleuve tranquille, c'était une aventure qui a été en grande partie gagnée, mais qui a eu quand même quelques accidents. Et puis, il y avait des questions scientifiques tout à fait réelles. Par exemple, au moment du procès du BCG à Lübeck, on a posé la question, est-ce que des vaccins virulents atténués peuvent, au cours des manipulations, regagner leur virulence? C'était à l'époque une question insoluble. Aujourd'hui, cette question, grâce à la génétique, a reçu des réponses, mais il y a de nouvelles questions qui apparaissent. L'immunologie est de plus en plus compliquée et elle ne répond en même temps pas à toutes les questions qu'on peut se poser sur les conséquences de l'immunisation sur un organisme, parce qu'on ne peut pas surveiller chaque cellule et chaque molécule dans l'organisme humain. Il y a donc des questions. Et je pense que ces questions sont en particulier liées à l'individualité. Or, le public, en particulier le public français, a bien entendu cette leçon de l'individualité. J'ai presque fini. Il a bien entendu cette question. Les individus ne se ressemblent pas. Et beaucoup de gens vous expliquent, moi je veux bien me faire vacciner, mais je veux d'abord qu'on m'établisse ma formule génétique, qu'on me prouve que je n'ai pas des gènes, que j'ai des gènes qui vont m'obtenir une très bonne réponse à tel ou tel antigène et que je ne ferai pas de réponse anormale, aberrante, etc. Donc il est difficile d'imaginer un gendarme génétique derrière chaque citoyen et une formule établie, c'est pour le moment totalement utopique. Mais on voit bien que quelque part, le public a entendu une certaine leçon de l'immunologie et il l'a appliquée à la question du vaccin obligatoire en population. Et c'est là où ça devient à la fois, et c'est ça que j'aime dans le sujet de la vaccination, c'est un sujet de science et de société, indissolublement quelque part. Ça, je ne sais pas si... Voilà. Alors, en conclusion, comment on peut, et je pense que c'est l'enjeu de ce soir, de cette rencontre, comment on peut associer les citoyens au développement de la science et de la vaccinologie qui, à elle seule, résume... fait interagir plusieurs disciplines entre elles. Je crois que nous sommes résolus à faire organiser des forums, des discussions. Je pense que la concertation dont Alain va vous parler bientôt, les résultats de cette concertation étaient conçus dans cet esprit. Je pense aussi que la population est nécessairement associée dans l'avenir à la surveillance des effets secondaires des vaccins, avec évidemment toute la difficulté de gérer ce flux d'informations si chaque citoyen observe sur lui et sur les autres les effets secondaires bénins ou plus graves ou insignifiants, mais signifiants à ses yeux, des effets de la vaccination. Au fond, la vaccination, c'est un vrai banc d'essai de la démocratie scientifique. Et je dirais pour conclure que c'est l'occasion de renouer le contrat entre la société et la recherche. C'était l'enjeu de notre concertation dont maintenant Alain va vous parler.
Est-ce que cette hésitation, cette défiance que Calmarie vient d'analyser est incontournable et devant nous et est-ce qu'on peut résoudre ces questions? Est-ce qu'on peut arriver à éviter qu'elles aient des conséquences trop importantes sur la vaccination? Eh bien, il y a des exemples qui montrent que oui, parce que la situation actuelle, à nouveau en Grande-Bretagne, je n'ai pas un amour particulier pour la Grande-Bretagne, mais je n'ai rien contre non plus, mais il se trouve qu'en Grande-Bretagne, la situation est particulièrement favorable. Ici, vous avez un poster qui était récemment, fin de l'année dernière, publié par les autorités de santé britanniques. Si vous arrivez à lire dans ce qui est l'ovale rouge, comment? Ah, pardon, je ne me suis pas mis en diaporama. Mille excuses. Ouais. Pardon. Vous pouvez lire, j'espère, que 94% des parents adhèrent au programme de vaccination qui est proposé aux enfants en Grande-Bretagne, incidemment qui inclut la fameuse vaccination HPV, donc qui est si peu suivie en France. Et donc on a une situation qui est favorable en Grande-Bretagne, à vrai dire elle est à peu près probablement aussi favorable dans les pays scandinaves, en Allemagne, aux Pays-Bas, en gros la moitié nord de l'Europe. Donc qui montre que la situation n'est pas inéluctable. Il y a beaucoup de différences entre la France et la Grande-Bretagne. L'histoire de la vaccination, dans le domaine de la vaccination, et de la santé en général, mais peut-être, et ça revient au point d'Anne-Marie, les aspects politiques et sociétaux plus larges peuvent avoir des conséquences sur la pratique de la vaccination et l'acceptabilité de la vaccination. Mais enfin, donc, des programmes de vaccination peuvent être accomplis de façon satisfaisante, sans obligation en Grande-Bretagne. Vous allez voir que je vais me contredire dans deux minutes, mais je vais essayer d'assumer la contradiction, sans obligation, puisque depuis, je crois, le début du XXe siècle, je parle sous le contrôle d'Anne-Marie, il n'y a plus d'obligation vaccinale, même pour la vaccine en Grande-Bretagne, alors que c'était maintenu en France. Et comme Anne-Marie vient de vous le rappeler, en France, il y a toujours trois vaccins obligatoires. Les vaccins contre diphtérie, tétanos et polio. Diphtérie, tétanos a été établi avant la Seconde Guerre mondiale, polio en 1964. Et que depuis, tous les nouveaux vaccins qui sont apparus grâce au progrès de la recherche scientifique sont recommandés, mais non pas obligatoires. Ça, on va passer parce que c'est ce qu'a dit. Là, nous sommes arrivés donc au mois de novembre, en fin d'une année de travail de notre concertation citoyenne. Je vous rappelle donc qu'il y a un groupe dont faisait partie Anne-Marie, en gros composé de trois types de personnes, des scientifiques des sciences humaines et sociales, je pense que vous êtes des scientifiques, tu t'es exclu un peu des sciences, mais il n'y a pas de raison, des scientifiques de biologie et médecins, et des représentants de la société civile, qui est un troisième tiers, si vous voulez, qui avait un intérêt pour les questions de vaccination. Donc nous avons travaillé pendant pratiquement une année, nous avons entendu et discuté avec les deux jurys qui avaient émis leurs recommandations, et notamment nous avons eu une discussion très très riche avec eux, où on aboutissait pratiquement à un consensus sur des questions pourtant largement controversées, sur qu'est-ce qu'il faut faire à l'égard de la vaccination, et nous sommes aidés évidemment d'expertise, etc., etc. Donc un rapport a été rédigé, il a été remis à la ministre le 28 novembre, il est incidemment, si vous avez envie de le lire, il est accessible sur un site qui est concertation-vaccination.fr, il a été présenté publiquement le 30 novembre, et le préalable à ces recommandations, c'est finalement de citer ce qu'ont dit les jurys, en l'occurrence de citoyens, donc de personnes de la population française, de tous âges, toutes professions, de toute origine géographique, qu'ils ont réaffirmé, de par eux-mêmes, le caractère impératif et indispensable à la vaccination. C'est pas mal pour émanant d'un pays où 40% des gens doutent. Et en estimant que le programme de vaccination était évidemment valide, tant en tant que facteur de protection individuelle que collectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ils ont demandé, et nous avons demandé évidemment avec eux, un engagement ferme et résolu de l'État et des autorités sanitaires dans la durée en faveur d'une politique permettant de promouvoir la vaccination à partir d'une série de mesures dont je vais vous parler maintenant. La première, qui est une exigence citoyenne de transparence, Anne-Marie en a dit un mot. C'est une affaire qui est délicate puisque la notion de conflit d'intérêts est maintenant mise en avant de façon systématique pour dénigrer éventuellement la vaccination ou éventuellement dans d'autres domaines, parfois à juste titre parce qu'il existe réellement des conflits d'intérêts, mais parfois d'une façon largement abusive, et dans ce cas-là, évidemment, ceci n'est pas acceptable. Donc il y a derrière ces notions une volonté légitime de transparence qui n'est pas si simple à mettre en œuvre que cela, qui se décline en termes de vaccination sur l'ensemble des experts qui sont amenés à prendre des décisions dans les comités qui dépendent du ministère de la Santé, de la Haute Autorité de Santé, qui sont amenés à prendre des décisions sur les recommandations de vaccination, par exemple, mais aussi une transparence des données. Les données des essais cliniques qui ont conduit à considérer qu'un vaccin était sûr et qu'un vaccin était efficace. Il y a dans ce sens des progrès, puisque l'Agence européenne du médicament a récemment demandé à l'industrie pharmaceutique de rendre publiques des données brutes d'un certain nombre d'essais clinique en médecine, et donc ceci peut s'appliquer à la vaccination, même si elles sont dures à lire, probablement que l'accès à ces données et des garanties sur d'où parlent les experts, s'ils ont des liens, ils doivent le déclarer, mais qu'ils n'ont pas forcément des conflits d'intérêts, ceci doit être largement connu pour essayer de réduire au maximum la défiance et rétablir une meilleure confiance à l'égard des experts, des professionnels de santé et directement et indirectement, ensuite des politiques impliquées dans la politique de santé et peut-être de l'industrie du médicament. Le deuxième aspect qui est absolument majeur, c'est la nécessité d'un effort d'information, d'écoute, d'éducation et de communication autour de la vaccination. Alors, une première action a été menée par l'Agence de santé publique qui est nouvellement créée il y a quelques mois, qui est la mise en place d'un site public qui est ouvert à la population, vous avez l'adresse. Le titre, l'adresse n'est pas terrible, il faut qu'il s'améliore en termes de lisibilité et de simplicité, mais c'est vaccination-info-service, on peut évidemment mieux faire. Cela dit, si vous allez sur Google, vous tombez dessus immédiatement, ce qui est plutôt rassurant. Le site est de qualité et il apporte toutes les informations possibles et imaginables, avec des critères de rigueur sur leur véracité concernant la vaccination, ce que sont les vaccins, les avantages, les risques, etc., etc., leur histoire, toutes les informations possibles et imaginables. Et ils sont en train de construire en parallèle un second site pour les professionnels de santé, pour qu'eux-mêmes puissent avoir accès à ces informations, évidemment dans un langage un peu plus technique, ce qui est indispensable pour permettre aux professionnels de santé à interagir avec la population. Ça fait partie de l'effort d'information. C'est largement insuffisant, mais c'est une des mesures parmi d'autres qui doit favoriser les possibilités de par la connaissance, la plus largement répandue possible, d'améliorer la confiance en la vaccination. Derrière ce site, il est demandé qu'il y ait un comité d'experts transparent, indépendant, qui donne le gage que ces informations sont de qualité. Donc l'espoir, c'est qu'il y ait un site qui soit connu de toute la population, plus facile encore d'accès que celui-là, mais et dont on est garant du sérieux. L'information, c'est aussi répondre aux allégations. Par exemple, quand M. Joyeux fait des déclarations erronées, de lui répondre et de ne pas rester dans le silence, comme cela a été pendant un grand nombre d'années. L'aspect éducation est majeur, évidemment éducation à l'école, dans les programmes d'éducation sanitaire, mais aussi éducation à tous les autres âges de la vie. Et la communication, une image que nous avons proposée, la ministre était a priori favorable, même s'il n'y a pas eu d'action pour l'instant, c'était de mener des grandes campagnes de communication assez violentes, type de celles qui ont été menées dans le domaine de la sécurité routière, par exemple. D'ailleurs, il y a beaucoup d'analogies, à mon sens, entre la problématique de la sécurité routière, qui concerne soi-même, mais aussi les autres, où il y a des obligations, on doit limiter sa vitesse, on doit porter une ceinture de sécurité, etc., et la vaccination, où il peut y avoir des limitations et des obligations. Donc, mais il faut que ce type de campagne, qui doit être à la fois globale et sans doute ciblée, soit menée dans la durée, et c'est ainsi que nous l'avons recommandé. L'école, évidemment, est absolument essentielle, comme lieu d'éducation, plus largement aux questions de santé, mais probablement, si on peut améliorer la situation dès l'enfance, on peut avoir un gain conséquent pour le reste de la vie. Incidemment, là, j'ai mis une petite bande dessinée, le début d'une bande dessinée, qui vient de sortir aux États-Unis, qui est un mode d'information possible. Vaccines work, here are the facts. Et donc, c'est un exemple d'initiative qui, d'une façon ludique, essaye d'expliquer la vaccination aux enfants. Au-delà, je suis obligé d'être assez synthétique, le troisième point est la simplification du parcours vaccinal. C'est assez compliqué de se faire vacciner aujourd'hui. Donc au-delà de l'hésitation, il y a aussi la simple lassitude, paresse, ou le fait qu'on n'a pas envie d'aller chez le médecin une première fois pour obtenir une ordonnance, aller chez le pharmacien chercher le vaccin, qui parfois ne sera pas présent chez le pharmacien, et retourner chez le médecin pour se faire vacciner. C'est trop compliqué, et ça lasse. Et ceci dissuade une partie de la population de se faire vacciner de façon raisonnable. Donc on doit simplifier ce parcours vaccinal, augmenter l'accessibilité aux vaccins, en faisant en sorte qu'il y ait des vaccins disponibles chez le médecin, qui puissent directement vacciner. C'est tout aussi simple que cela. Faire en sorte que, au moins dans certaines situations, les pharmaciens eux-mêmes puissent vacciner. Il y a des enquêtes qui montrent qu'il y a une partie de la population qui pourrait être ciblée ainsi. Et puis l'école, on y revient, Anne-Marie a fait allusion au fait que notre génération a été vaccinée à l'école et qu'on ne vaccine pratiquement plus à l'école parce que la médecine scolaire est en déshérence, qu'il y a peu d'infirmiers dans les écoles. Or pourtant, on sait que si on vaccine à l'école, on peut penser au rappel de vaccination prévu à 6 ans, à 11 ans, et la vaccination anti-HPV, associée à l'éducation autour de la vaccination, c'est probablement un moment clé pour faciliter, favoriser l'adhésion de la population à la vaccination. À nouveau, dans des pays voisins, la Grande-Bretagne, la Suède, moins voisins, l'Australie, ils ont mis en place des programmes de vaccination, notamment contre HPV, à l'école, et ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de médecin scolaire, donc malheureusement, on ne peut pas se reposer sur les médecins scolaires, mais il y a une solution pratique, je suis dans les choses très très pragmatiques. On peut tout à fait s'appuyer sur le corps des infirmiers libéraux, qui sont absolument d'accord pour le faire. Il ne manque qu'un décret pour que cela soit possible, que des infirmiers viennent vacciner dans les écoles, et faire en sorte que les rappels soient mieux effectués et que la vaccination anti-HPV soit effectuée, bien sûr avec l'accord des parents, mais le contexte de l'école le favorise. Comme Anne-Marie l'a très bien rappelé, et moi je l'ai vécu dans une réunion avec des responsables de l'administration du ministère de l'Éducation nationale, les autorités administratives de l'Éducation nationale sont réticentes parce qu'ils cherchent à avoir le moins d'ennuis possible avec les parents. Mais je pense qu'il faut surmonter ce handicap et travailler sur la vaccination à l'école, mais aussi ailleurs, les lieux de travail, à chaque fois que la population est en contact avec le monde de la santé. Le suivi individuel de la vaccination avec la mise en place du fameux carnet de santé électronique, en tous les cas le carnet de vaccination électronique serait une grande avancée. Ça fonctionne dans deux régions françaises, donc il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir le généraliser. C'est techniquement très très simple. Et il y a une question autour de la disponibilité des vaccins. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais malheureusement, il y a un souci de tension sur le marché de la vaccination lié à plusieurs raisons, pas toujours complètement claires, qui font qu'on a parfois la difficulté de trouver le bon vaccin chez le bon pharmacien. Et ceci renforce une certaine suspicion à l'égard de la vaccination, donc il faut améliorer les choses. Probablement les circuits d'achat et de distribution peut-être pourraient être centralisés et améliorés en France. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Il faut aider les professionnels de santé qui décrivent, c'est très intéressant de les entendre, leur désarroi face à un nombre croissant d'individus, de parents notamment, qui expriment des réticences à l'égard de la vaccination de leur enfant. Donc pour les convaincre, il faut avoir les arguments et prendre du temps. Les médecins libéraux ont relativement peu de temps. En tous les cas, il faut les aider en leur apportant toutes les ressources possibles, y compris les entraîner au dialogue. Comment on convainc une famille réticente à l'égard de la vaccination? Ça peut s'apprendre à la faculté de médecine, ça peut s'apprendre dans les écoles d'infirmiers, chez les pharmaciens, et ça peut s'apprendre dans la formation continue, qui est malheureusement un peu défaillante en France concernant les professionnels de santé. Une de nos recommandations, évidemment, c'est le développement de la recherche. Il reste beaucoup à faire en vaccination. Il y a beaucoup de maladies pour lesquelles nous aimerions avoir des vaccins. Nous sommes dans le paradoxe par rapport à la réticence. Mais si demain il y avait un vaccin contre le sida, le paludisme, plus efficace que ceux qui existent déjà, d'autres de bactéries, par exemple résistantes aux antibiotiques, ce serait une très grande avancée. Si demain on peut vacciner par patch sans piquer, ce serait une grande avancée. Il y a des recherches qui sont menées dans ce sens. Parce que mine de rien, la piqûre est un facteur de réticence non négligeable. Bref, et puis toutes sortes d'autres recherches sur les adjuvants, etc. Et les recherches en sciences sociales et humaines qui sont, vous l'avez entendu, cruciales pour comprendre ce qui se passe et intervenir. Il ne s'agit pas simplement de comprendre, il faut intervenir. Et on arrive au cœur du sujet, pour terminer, qui est cette situation propre à la France et probablement qui en partie explique, je pense, le fait que cette réticence soit plus forte en France que dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Cette coexistence, fruit de l'histoire, entre trois vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos ou polio, et les autres qui ne le sont pas, alors qu'ils sont largement aussi importants. Comment sortir de cette situation qui est incompréhensible et qui est utilisée par les personnes qui n'aiment pas les vaccins pour dire « nous voulons des vaccins trivalents, diphtérie, tétanos, polio, si possible sans adjuvant », ce qui est un non-sens par ailleurs. Donc, autrement dit, nous voulons bien suivre la loi et que nos enfants soient vaccinés contre diphtérie, tétanos, polio, mais pas contre les autres. Et donc il y a eu d'ailleurs récemment, vous l'avez peut-être suivi, un recours au Conseil d'État où, de façon justifiée par rapport à la loi française, le Conseil d'État a mis en demeure les autorités de santé à mettre à disposition des vaccins à l'égard des trois valences obligatoires, ce qui est techniquement impossible dans le délai qui est demandé, qui est de 6 mois. Et de toute façon, l'industrie des vaccins ne développeront pas, pour des raisons évidentes de marché, mais aussi de logique scientifique et médicale, de tels vaccins. Mais nous sommes dans cette contrainte dont il va falloir sortir. On peut sortir de deux façons. Soit, comme dans la plupart des pays européens actuels, on arrête toute obligation et on recommande, avec une pédagogie la meilleure possible, pour que l'adhésion de la population et des professionnels de santé soit bonne. Soit, à l'inverse, on élargit l'obligation. C'est une dualité un peu forte, mais il n'y a pas vraiment d'alternative. Éventuellement de façon temporaire, le temps que la confiance de la population s'améliore. Alors après, on peut discuter avec des clauses d'exemption, sans clauses d'exemption. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Je vais vous dire exactement ce que nous avons proposé. Ce que nous avons proposé, et ce qui est écrit ici, c'est l'élargissement temporaire de l'obligation vaccinale aux 11 valences. Elles sont en bas en abrégé, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus B, virus de l'hépatite B, pneumocoque, méningocoque C, rougeole, oreillon, rubéole. Pardon pour la liste. Comme ça, on sait de quoi on parle, qui sont les 11 vaccins, pas 11 piqûres, mais les 11 vaccins qui sont utilisés pour vacciner les enfants dans les 2 premières années de vie et qui sont recommandés par l'OMS, par les autorités de santé françaises, enfin, qui sont parfaitement justifiés sur le plan médico-scientifique. Donc, temporairement, d'élargir l'obligation à ces 11, donc passer de 3 à 11. Okay. Nous avons pensé qu'entre les deux mots, parce qu'il n'y a pas de solution idéale, celle-ci était meilleure que l'autre, c'est-à-dire le renoncement à l'obligation. Je suis allé trop vite là, excusez-moi. Nous avons pensé que c'était la moins mauvaise solution en raison de ce que je vous ai indiqué un peu plus tôt dans la soirée, qui était cette réticence importante exprimée par la population, en particulier par des jeunes adultes qui disent, en France, même si ce n'est pas le cas ailleurs en Allemagne, en Suède ou en Grande-Bretagne, que si demain il n'y avait plus d'obligation, ils ne feraient pas vacciner leurs enfants, 20% d'entre eux. Nous pensons que, compte tenu de l'enjeu de santé publique, qui est majeur, je ne rappelle pas ce que nous avons dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, prendre le risque de lâcher l'obligation vaccinale, même si ça fonctionne ailleurs en Europe, pas aux États-Unis, mais en Europe, serait prendre
le risque d'accepter la survenue d'épidémies graves d'infection en France. Néanmoins, nous avons pensé, avec les jurys, qu'il fallait tendre vers ce système qui serait de responsabilité des citoyens, où, ayant bien compris, grâce à des actions d'information, de pédagogie, etc., dont j'ai parlé antérieurement, bien compris l'intérêt de la vaccination, que dans quelques années, on puisse arriver à rejoindre nos voisins européens, en tous les cas les voisins de l'Europe du Nord, sur le fait que la recommandation suffise. Mais encore une fois, nous pensons qu'aujourd'hui, ce serait une prise de risque inacceptable. Même, on ne peut pas être sûr, naturellement. C'est une évaluation d'une situation. Et à vrai dire, dans les réunions avec les jurys, même ceux qui préconisaient renoncer à l'obligation, lorsqu'on en discutait, ils acceptaient l'idée qu'on ne pouvait pas le faire aujourd'hui. C'était certes un but louable, et même la meilleure façon de travailler en termes de santé publique au niveau d'une population, mais que ce n'était pas praticable aujourd'hui. Donc en pratique, nous l'avons proposé avec une clause d'exemption pour essayer d'en limiter l'impact, et cette fois-ci sur le plan politique, mais clause d'exemption, c'est-à-dire pour une famille qui serait absolument hostile à la vaccination, mais avec la révocation possible de cette clause d'exemption s'il y a une menace de santé publique, si par exemple on voit apparaître des cas de rougeole. Cette situation, nous ne l'avons pas inventée, c'est ce qui se passe dans certains États des États-Unis. Par exemple, la Californie a un système d'obligation. Il y avait une clause d'exemption qui a été levée il y a quelques années en raison de la survenue d'une épidémie de rougeole autour de Disney World, incidemment, c'est là que les enfants ont été contaminés. Et aujourd'hui, ils sont dans une situation d'obligation sans clause d'exemption. C'est la situation de la Californie. Pour nous, c'est évidemment l'objet, après des discussions, les jurys et les membres du comité, un compromis entre l'exigence de santé publique et l'acceptabilité. Il faut que la population puisse accepter ces mesures, sachant qu'il y aura forcément des oppositions qui sont exprimées par certains. Néanmoins, je me complique la vie en vous invoquant d'emblée, il nous a été fait remarquer que la Constitution, en fait le Conseil constitutionnel, a émis un avis sur la vaccination en 2015, indiquant que la seule exemption possible à la vaccination était d'ordre médical. Donc probablement la proposition d'exemption en France n'est pas légale, n'est pas recommandable, et la seule qui puisse être faite donc, dans ce domaine, c'est une obligation temporaire d'élargissement de la vaccination. Encore une fois, avec l'idée qu'à terme, X années, ce serait de lever cette obligation fondée sur les paramètres de bonne couverture vaccinale et de confiance. Nous proposons d'y associer la prise en charge intégrale du coût des vaccins par la collectivité. Aujourd'hui, en dehors du vaccin contre la rougeole et un ou deux autres, j'ai oublié lesquels, la vaccination n'est prise en charge à 65%. Donc le coût, le reste à charge est de l'ordre, dans le contexte de la vaccination actuelle, de 150 millions d'euros. Certes couvert pour l'essentiel par les mutuelles, mais évidemment pas en totalité. Et nous pensons qu'un effort de solidarité publique, de couverture complète de la vaccination, serait de nature à transmettre à la population un message fort de l'importance de la vaccination et incidemment quand même d'aider les quelques-uns qui sont en situation financière difficile et les précaires, ce qui est le cas notamment pour du vaccin anti-HPV qui est extrêmement onéreux, le reste à charge est de 100 euros, trop onéreux incidemment, c'est une autre question, mais donc nous pensons que c'est une condition importante. Et je vous dis tout de suite que ça ne plaît pas du tout au ministère de la Santé. Malheureusement, nous pensons qu'il faut maintenir un régime d'indemnisation des effets indésirables. Il existe, mais il faut donc qu'il couvre les effets indésirables possibles à l'égard des vaccins obligatoires. Et évidemment, travailler en parallèle sur la disponibilité des vaccins. Quelques points spécifiques pour terminer. La vaccination anti-HPV, encore une fois, un drame en France, vraiment un drame. C'est inouï que ceci ne soit pas mieux popularisé dans les médias, qui ne sont pas toujours aidants, enfin, ça dépend lesquels. Il faut arriver à faire en sorte que cette vaccination se développe comme elle s'est développée chez nos voisins. C'est la rendre obligatoire alors qu'on part d'un taux de vaccination de 15%, ce serait illusoire. Donc, malheureusement, je crois que nous n'avons pas considéré de faire cette proposition, mais nous pensons que la prise en charge intégrale du coût du vaccin, encore une fois, celui-là est onéreux. Le nouveau vaccin qui est très bien contre HPV, il coûte la vaccination totale, c'est 240 euros, 100 euros de reste à charge, c'est une somme importante. Et évidemment, les efforts d'information, de pédagogie, de communication, la vaccination à l'école, et sans doute le fait de vacciner les garçons, pour trois raisons. Vacciner les garçons, c'est aussi diminuer évidemment l'inoculation des virus HPV, de la transmission sexuelle des virus HPV. Deuxièmement, il existe aussi, en nombre croissant, des cancers oropharyngés liés à HPV, et qui touche aussi les garçons, et probablement les vaccins, ce n'est pas encore démontré, mais seront efficaces. Et troisièmement, sans doute, s'il y a une vaccination de toute une classe d'âge, les réticences dont a parlé Anne-Marie, liées au caractère sexuel de façon indirecte de cette vaccination, pourraient être levées et faire en sorte que la réticence diminue. Donc c'est une proposition qui n'est pas strictement celle de notre comité, mais en tous les cas que j'endosse à titre personnel. Se pose ici la question de la vaccination des adultes. Là aussi, il y a un effort important à faire, les rappels de vaccination. Plus on avance en âge, moins la couverture vaccinale est bonne. On arrive à la grippe où on est à l'ordre de 50%, ce qui est extrêmement dommageable pour les personnes âgées, parce que les personnes les plus âgées ne répondent plus au vaccin. Donc elles ne sont protégées que par leur entourage. Donc leur entourage familial aussi, ces personnes vivent en milieu familial, leur entourage de soins, plus leur famille, s'ils sont dans un EHPAD. Et on a eu récemment un drame dans un EHPAD à Lyon, parce que le personnel de santé de cet EHPAD n'avait pas été vacciné. Ce qui nous amène au dernier point, qui est la vaccination des professionnels de santé, dont on pourrait parler très très longtemps. Est-ce on doit obliger les professionnels de santé à se vacciner ou pas, notamment contre la grippe? Un autre sens, il y a au moins un mot qu'il faut évoquer, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que si l'on veut convaincre la population de l'importance de la vaccination, le moindre des choses, c'est que ceux qui en parlent le fassent en étant eux-mêmes vaccinés. Ça paraît assez évident, mais pas toujours aussi réellement en place, puisque si on regarde les taux de couverture vaccinale contre la grippe des personnels de santé, il y a un déficit important, notamment chez les infirmiers, sans chercher évidemment à les stigmatiser. Donc la conclusion de notre rapport, c'était de proposer un nouvel élan de politique de santé publique pour la vaccination, avec un plan d'action construit autour de ces propositions dans la durée, avec une écoute des interrogations. S'il y a de vraies interrogations, il faut essayer d'y répondre. On a vu que ce n'était pas facile. Il faut une mobilisation politique et une mobilisation ensuite des acteurs de santé. Et on est dans une situation de grande attente. Par exemple, au décours de notre présentation, il y a 30 sociétés médicales, l'ensemble des ordres, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens aussi, les sages-femmes, qui ont soutenu la mise en place, comme vous pouvez le lire, les demandent la mise en place en immédiate des recommandations de la concertation citoyenne sur la vaccination. Vous ne pouvez pas lire les détails, mais c'est l'ensemble des associations, y compris aussi des associations de citoyens ou des associations de patients vulnérables, par exemple immunodéficients, qui ont besoin que leur entourage soit vacciné. Donc il y a eu une certaine mobilisation qui a été menée, et dans un contexte où il y a eu depuis l'avis du Conseil d'État, donc qui exige de l'État la mise à disposition d'un vaccin concernant diphtérie, tétanos et polio, dans les 6 mois qui viennent, ce qui ne va pas se produire. Donc la seule réponse possible de l'État, c'est pas possible techniquement, et c'est pas possible parce que l'industrie pharmaceutique ne le fera pas, en l'occurrence pour de bonnes raisons, qui est qu'il n'y a pas de justification à faire un vaccin de ce type, puisqu'il faut aussi vacciner contre l'hépatite B, l'hémophilus et la coqueluche. Ce serait dangereux de ne vacciner que contre diphtérie, tétanos et polio. Donc la seule solution d'en sortir, mais qui rejoint les préoccupations de la recommandation, c'est soit de lever l'obligation, on revient au dilemme évoqué, soit temporairement d'élargir, comme nous le proposons en France, compte tenu de nos spécificités nationales, les obligations vaccinales chez les jeunes enfants. Donc le dernier point, c'est quelle réponse des pouvoirs publics? Nous attendons, clairement, le gouvernement en place et la ministre de la Santé en place, qui a pourtant commandité ces recommandations, a finalement décidé de ne pas œuvrer. Et donc, ces recommandations seront évidemment proposées à nouveau au prochain gouvernement et au prochain ministre de la Santé, dans un délai qui sera celui que nous verrons. Mais ce gouvernement et ce ministère de la Santé aura la pression de l'avis du Conseil d'État, qui court. Dans 4 mois, il faudra qu'ils aient donné une réponse. Donc ceci peut nous aider à favoriser une évolution de la politique vaccinale en France. Il y a eu beaucoup de discussions autour de cet avis, mais on sera ravis d'avoir votre opinion. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie.
Vous avez donc les données scientifiques.
philosophique, anthropologique.
Et les propositions qu'a fait ce groupe animé par Alain Fischer et Madame Moulin, est-ce que vous avez des questions sur cet intéressant sujet? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a encore une fois. C'est une.
Bonsoir, merci beaucoup à tous les orateurs. Pierre Buffet, je suis au Centre médical de l'Institut Pasteur à Paris Descartes. C'est assez enthousiasmant le programme que vous nous annoncez. J'ai le souvenir, pour avoir été au Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de cette tension entre obligation vaccinale et renforcement des anti-vaccins dont Anne-Marie Moulin a parlé. Et donc la question, c'est en termes de communication. Vous l'avez évoqué, mais moins dans les dernières conclusions. Le plan d'attaque va devoir être vigoureux et enthousiaste. Et donc, est-ce que vous souhaitez communiquer un peu plus sur ce sujet ?
Oui, absolument. Pour nous, pour notre comité, les propositions forment un tout, qui ne se découpe pas. Évidemment, les ministres ils n'aiment pas trop entendre cela, mais néanmoins, c'est ce que nous avons dit et écrit, c'est-à-dire que en tous les cas, ça tombe sous le sens qu'on ne peut pas envisager de proposer un renforcement de l'obligation, difficile à faire passer, sans un accompagnement intensif, je dirais, et bien réfléchi, de campagnes d'information, d'une part, de communication, pas tout à fait la même chose, évidemment, d'autre part, l'un ne va pas sans l'autre, et puis toutes les autres mesures de facilitation vaccinale, etc., c'est bien évident. On peut même considérer que peut-être il faut commencer par toutes ces mesures, disons, qui permettrait de favoriser une meilleure confiance avant d'attaquer la question de l'obligation. En même temps, le temps presse. Donc il y a néanmoins un lien entre les deux. Mais il est évident que les deux vont de pair. Mais évidemment, il y a une certaine prise de risque politique. Okay. Il faut que ces mesures passent, entre guillemets, que l'acceptabilité soit satisfaisante. Et cela, au-delà des campagnes d'information et de communication, ça passe par l'adhésion de tous les acteurs de terrain, des professionnels de santé. Il y en a qui sont très fortement mobilisés en ce sens. C'est pas que les médecins, hein. Infirmiers, très impressionnant, le corps des infirmiers est très demandeur de participer aux campagnes de vaccination, en particulier les pharmaciens, les acteurs de la santé publique dans ce pays. Enfin, c'est vraiment une mobilisation collective qui doit se faire avec des appuis médiatiques, évidemment les relais médiatiques satisfaisants, pour que cela puisse se produire. C'est sûrement pas facile, et il y aura évidemment des oppositions qui seront assez bruyantes, c'est sûr et certain, mais de temps en temps, il faut, me semble-t-il, avoir un minimum de courage politique, sinon on ne fait pas grand-chose.
J'avais une proposition à vous faire, et je vous remercie également pour les deux les exposés. Le fait d'avoir une égérie, une personne très connue qui communique sur les sujets, ça permet quelquefois de débloquer des situations. Moi, je travaille dans le domaine du haut risque de cancer et Mme Angelina Jolie, qui a pris l'option de se faire enlever les deux seins alors qu'elle n'avait pas de cancer, a joué un rôle majeur dans la détermination des femmes à adopter cette attitude. Et pourtant, Dieu sait qu'on parle bien de prévention et de quelque chose d'autrement plus violent que de se faire piquer l'épaule.
Vous avez sûrement raison. Enfin, je suis pas du tout. Enfin, nous ne sommes pas des spécialistes de communication et ça doit être un travail de communication professionnelle, fait avec des professionnels de la communication et pas bricolé dans un coin. Et cela peut passer, entre autres, par le relais de personnes connues de la population, personnes pour lesquelles la population a une certaine confiance et qui soient des relais dans la diffusion de cette communication. Mais ça ne peut pas être que cela. C'est aussi de l'information. Et c'est aussi, je pense, une communication qui peut être dure, mais comme cela a été fait pour les accidents de voiture, j'y reviens, la sécurité routière, de montrer des images choc de conséquences de ne pas être vacciné. Et de l'être, et ceci concernant des personnes vulnérables, des nouveau-nés, des personnes fragiles, immunodéprimées, et tout le monde en connaît, parce que ce sont les personnes atteintes de cancer, les personnes atteintes de maladies chroniques, greffées, etc., et puis les personnes âgées.
Jean-Louis.
Merci beaucoup de vos exposés et puis de la prise de position suite à votre au rapport et à cette conférence citoyenne. Je pense que c'est important, c'est très difficile, mais c'est sinon la moins mauvaise, tout sûrement la meilleure. Je voulais vous faire quelques remarques, par exemple, sur le Royaume-Uni. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience plus forte chez les sujets britanniques que chez les citoyens français de ces questions de risque par rapport aux autres que vous avez évoquées, que la vaccination intervient beaucoup? On a vu ça, par exemple, dans l'histoire du VIH et des contaminations par le transfert de la seringue, hein, c'est très clair. Est-ce que ceci n'a pas joué un rôle? Moi, je veux bien que les autres soient vaccinés pour me protéger, mais moi, protéger les autres, c'est pas tout à fait la même chose. Deuxième remarque ou question.
Peut-être on peut les prendre une par une, ça vous ennuie pas? Peut-être Anne-Marie, peut-être vous répondre sur le...
Ben, c'est un des aspects les plus difficiles. Au fond, il y a une boutade qui la résume bien. C'est l'idéal, c'est que tout le monde soit vacciné sauf moi.
Oh. Peut-être quand même, il me semble, il y a des meilleurs spécialistes que moi dans la salle qui pourraient éventuellement intervenir, mais il me semble que la France n'est pas le pays où la culture de la prévention en santé est le plus développée. Voilà, et je pense que nos collègues anglo-saxons et scandinaves, par exemple, ont développé, ça va bien au-delà de la vaccination en l'occurrence, mais des politiques de prévention en santé qui sont infiniment... plus efficace, et c'est un problème, à mon avis, culturel du monde de la santé, mais de toute la population, il me semble. Donc si on veut gagner sur ce point, il va falloir, c'est un travail de longue haleine, et qui dépasse la vaccination, qui est d'une promotion, et à nouveau, il faudra se retourner en partie vers les politiques, mais c'est toute la société qui est impliquée, pour promouvoir les politiques de prévention en santé, dont la vaccination.
La deuxième question, alors je me suis souvent posé cette question de savoir pourquoi dans les années 60, la première vaccination non obligatoire était la coqueluche, alors que j'ai vécu, du fait de ma génération, ce qui se passait dans l'ancien Claude Bernard avec ce que vous avez évoqué, les catastrophes chez les nourrissons atteints de coqueluche, contaminés par leurs frères ou sœurs aînés. C'était dramatique, évidemment. Et tout ça a disparu avec la vaccination. Or, pour des raisons que nous ignorons, que je ne perçois pas bien, cette vaccination, alors que l'on vivait dans l'obligation de ces 3 et même 4, puisqu'il y avait la vaccine et le BCG, et même 5, comme vous avez rappelé, de vaccination obligatoire, personne ne disait rien, et personne n'a rien dit sur le fait que la coqueluche était considérée comme la vaccination aussi obligatoire, c'est-à-dire c'était le tétracoque, ça passait, et tant mieux pour ces nourrissons qui n'ont pas été contaminés. Alors que, comment la difficulté est venue après, alors est-ce que ce n'est pas la multiplication des vaccins, parce que là aussi ça jouait peut-être un rôle, c'est une question. Et puis troisième question, et j'arrête là, très pratique, puisque les médias sont un élément d'information, c'est bien naturel dans un pays. Est-ce que vous avez pu interroger, mais ou sur un plan scientifique, enfin faire des analyses, je ne sais pas, des médias, et qui sont souvent des médecins d'ailleurs, des journalistes médecins qui s'occupent de la partie médicale, notamment des vaccinations, qui ont un rôle majeur. Est-ce que également on regarde par exemple ce qui se passe au niveau des ouvrages scolaires de SVT, hein, parce qu'ils sont très calés en génétique.
Il suffit de les trop.
Je dis très calés.
Si, moi je dis trop.
Non, mais peut-être que par rapport aux vaccinations, ils sont trop calés. Voilà. Hein, mais c'est des ouvrages importants sur des adolescents qui, dans quelques années, se posent pour eux la vaccination et pour leurs futurs descendants. Voilà.
Ben, vous posez une question, une vraie colle. Pourquoi on n'a pas rendu le vaccin anticoqueluche obligatoire? Alors là, je sèche complètement. Est-ce qu'il y a eu un débat? Alors, moi, une explication que j'ai, c'est que le tétracoque a été très bien accepté. Ça simplifiait tout. Tous les vaccins allaient en même temps. Ce qui est drôle, c'est que cet argument, qui était un argument de facilité, qui a donc joué un rôle positif, c'est maintenant renversé. le fait que l'hexavalent est rejeté parce qu'on a l'impression que c'est une façon pour l'industrie pharmaceutique de vous contraindre à un vaccin avec 6 ou 7 valences. D'où d'ailleurs la revendication d'un vaccin avec les seules valences obligatoires. Donc ça veut dire que quelque chose qui a eu un effet positif au moment du vaccin anticoqueluche a aujourd'hui un effet négatif. Mais l'atmosphère générale a changé, en particulier la suspicion très forte à l'égard de l'industrie. Et je pense que c'est ça, un des facteurs. J'ai été frappée par une chose. Il y a eu une enquête en Tunisie récemment. Est-ce que sur la défiance à l'égard, de façon générale, du corps médical et des hôpitaux? Une personne sur deux en Tunisie, l'année dernière, a déclaré avoir peur si elle est soignée, soit qu'il y ait une erreur, soit que quelque chose se passe. Donc une personne sur deux. Pas une personne sur deux. Oui, une personne sur deux a dit « Je suis très effrayée à l'idée d'être soignée ». Et je me suis demandé, je pense que c'est une question qui était peut-être trop générale, mais elle indiquait bien un état de défiance. Et je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent de la population française de demander « Est-ce que vous avez peur de la médecine ? Est-ce que vous avez peur ?» Je ne pense pas qu'on pose des questions aussi grossières et aussi générales. Mais en même temps, on peut se demander ce qui se passerait si on posait la question comme ça. Peut-être qu'une personne sur deux dirait « Je me méfie globalement de toute l'industrie de santé ».
Sur les médias, je pense que vous avez raison, mais j'ai essayé de défendre un peu la même chose que vous dans une discussion à l'Institut Pasteur. Il y avait un certain nombre de jeunes chercheurs et je me suis fait agresser par les jeunes chercheurs qui m'ont dit, en gros, vous êtes gentiment, semi-gentiment, vous êtes d'une génération qui ne connaît pas les médias sociaux, ce qui se passe sur Internet, et donc ce que vous nous racontez sur les journaux, la télévision, on s'en fiche complètement, ça ne compte plus. J'ai envie de penser que c'est un tout petit peu excessif et qu'il y a encore un rôle des médias classiques dans l'information la plus raisonnée possible sur la vaccination. Mais sans doute, ces jeunes avaient raison. D'ailleurs, ils étaient sympas parce qu'ils se sont proposés de créer un groupe de jeunes, ce sont des jeunes chercheurs, des post-docs et des étudiants en thèse de Pasteur, de proposer un groupe de réponse contre les attaques, les allégations mensongères sur les réseaux sociaux. Mais probablement, c'est là que ça se joue le plus aujourd'hui. Mais les médias, c'est pas si simple que cela. Je vais faire mon numéro d'agression contre le journal Le Monde, parce que vraiment, il y a un moment où c'est trop. Le journal Le Monde, au cours de ces derniers mois et ces dernières années, avec l'intervention de plusieurs journalistes du Monde, bien que ce soit être censé le journal de référence le plus sérieux, de ce pays, a écrit un certain nombre d'articles extrêmement agressifs ou négatifs à l'égard de la vaccination, notamment sur le vaccin HPV. Au moins à deux reprises, a remis en doute très sérieusement la sécurité de ce vaccin de façon absolument pas justifiée. Le Monde a récemment écrit une critique acerbe du livre de Sansonetti, en gros en reprochant à Sansonetti de ne pas être un bon scientifique et d'avoir des conflits d'intérêts insupportables. Le Monde a écrit un article qui s'intitulait « Une concertation déconcertante », c'était pour critiquer notre travail, en attaquant plusieurs d'entre nous, dont moi, sur des liens supposés, des conflits d'intérêts supposés qui n'existent pas avec l'industrie. Donc c'est difficile. Et nous avions interviewé un des journalistes du Monde dans le cadre des auditions de notre comité, qui nous a parlé de la relativité, de la vision de ces choses par la population. Mais on a une difficulté aussi qui sont de certaines prises de position quasi idéologiques de certains journalistes. Probablement quelques difficultés autour de la formation des journalistes sur la compréhension des enjeux avant d'en écrire. À côté de cela, il y a des médias qui jouent un rôle extrêmement favorable et qui, je crois, présentent les choses de façon tout à fait honnête. Mais je n'ai pas une hostilité a priori contre le journal Le Monde, mais de fait, au cours de ces derniers temps, ce journal a pris une position étonnamment hostile à la vaccination, pour un journal en plus qui défend, et à juste titre par ailleurs, justement le fait de réfléchir et de présenter l'information fondée sur des faits scientifiques et pas selon le, entre guillemets, syndrome post-vérité. Mais dans le domaine de la vaccination, c'est l'application absolue du syndrome post-vérité. C'est assez étonnant. Mais cela dit, je pense que l'aspect réseaux sociaux est probablement quand même prédominant.
Oui, bonsoir. Merci pour vos exposés respectifs. Alors, je suis médecin généraliste rural, mais j'ai deux autres fonctions, et c'est un petit peu pour celle-là que je suis ici. Je préside une mutuelle de responsabilité des médecins qu'on appelle le saut médical, qui est chargée de défendre les professionnels dans ces situations. Et je suis également membre du Conseil de l'Ordre national des médecins à Paris. Et donc, je peux vous dire tout de suite que nous avons lu avec beaucoup d'intérêt vos travaux et que nous les appuyons, puisque dès janvier, nous avons passé un message au ministère qu'il était absolument nécessaire de prendre l'option, la grande option d'obligation, même temporaire, mais que c'était la seule solution. Et nous avons également fait passer le message qu'il était absolument indispensable que le corps médical et les professionnels de santé soient vaccinés le plus possible pour beaucoup de valences, en particulier la grippe, par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Alors, en quelques mots, pour vous appuyer, si on voulait résumer, on a parlé de l'individualisme de notre société, alors qui effectivement sont très aigus en France, et pour avoir beaucoup voyagé dans l'Angleterre, où j'avais des amis médecins et patients, et en Scandinavie, à Stockholm en particulier, quand vous expliquez à un patient suédois l'intérêt de ça, il dit ben, j'écoute, je partage, je suis d'accord, il n'y a pas besoin de discuter pendant une heure, et ils ne sont pas, comme en France, axés sur le train qui n'arrive pas à l'heure, grosso modo. Le deuxième problème, justement, qui est lié à cela, c'est droits et devoirs. Donc, ils sont obsédés par les droits et absolument pas obsédés par les devoirs. Quand je parle de devoirs, je parle de responsabilité, en particulier des parents, en particulier des éducateurs. Je connais bien le milieu enseignant pour en être issu. Et il n'y a absolument pas photo entre le milieu enseignant d'il y a 40 ans et le milieu enseignant actuel, qui justement, et j'arrive à la troisième remarque, c'est le principe de précaution que vous devez très bien connaître, qui est appliqué depuis maintenant une vingtaine d'années dans le système de santé pour des raisons bien évidentes et qui est toujours celui qui nous est mis à la face quand on essaye de faire ça. Puis encore un autre aspect qui est un aspect de, on va dire, de santé, système de santé, c'est le problème budgétaire et non pas économie de santé. C'est-à-dire qu'ils sont obsédés par la ligne budgétaire dépenses et absolument pas par l'aspect prévention qui pourrait amener des économies de santé dans les 5 à 10 ans. Donc le mot prévention est absolument indispensable et nous sommes face à des gros mammouths au niveau de certains ministères qui se refusent à avoir la vérité en face, mais nous ne sommes pas encore vaincus, bien sûr. Et le dernier point, pour activer un petit peu cet aspect des médias, pour lesquels effectivement on est contrarié par des aspects très négatifs, très pervers de certains médias contre les vaccinations, mais c'est un lobbying anti-vaccin qui date de très longtemps en France en particulier, il faudrait ouvrir une cellule communication et faire des montages. Bon, ça demande un investissement financier évident, mais ça peut valoir le coup. Alors dans les médias, effectivement, les réseaux sociaux sont plutôt négatifs, alors que si on... très souvent, parce que ça n'est pas contrôlé,
pas tous,
c'est un flux d'informations... fake news, effectivement, mais c'est incontrôlable. Alors que sur les médias classiques, on peut très bien faire des campagnes pour les vaccinations avec, effectivement, une promotion. Donc on sera là pour vous aider s'il faut. Merci.
Merci. Juste sur le dernier point, je reviens à mes jeunes doctorants de Pasteur, ils disent qu'il n'y a aucun souci, on est capable de mener des campagnes de réponse systématiques. Ici, un groupe de personnes soit vigilant sur le net, et eux, nous ne savons pas faire, mais eux savent faire. Et je pense qu'il faut s'aider de ces compétences pour les jeunes générations.
Voilà. Alors, il reste 5 minutes, donc on va prendre des moissons de questions, votre question, et si les jeunes générations de médecins qui sont là souhaitent prendre la parole, voilà. Donc, alors, vous posez votre question rapidement, et je pose les questions.
Bonsoir, merci encore. Je suis Pierre Vacache, pédiatre libéral dans les Hauts-de-France. Je viens de loin. Je voudrais juste faire 3 petites remarques rapides. Sur la question de la communication, nous sommes parfois démunis parce que dès qu'il y a un thème qui surgit, le flux d'informations qui nous noient vient de gens qui n'y connaissent rien parce qu'ils peuvent parler librement, alors que dans notre esprit scientifique où on doit colliger nos réponses et bien les synthétiser, et en plus être sûr d'avoir les éléments, par exemple sur un effet secondaire, analyser tous les éléments avant de répondre, on a perdu trop de temps avec la vitesse à laquelle déboule l'information sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un réel handicap. actuellement, depuis une semaine, pour ajouter de l'eau à ce que vous avez dit au grand moulin, c'est depuis une semaine, les courbes californiennes sont sorties. Depuis la suppression des droits à récuser la vaccination, ils ont une chute dramatique, c'est le terme anglais et pas au sens propre français, de la rougeole, et une remontée de la vaccination. Ils sont très heureux. Maintenant, ils sont en train de faire une chaîne de solidarité entre États. Il y a eu hier un appel au secours de la Californie en faveur du Colorado, qui est un État un peu trop libéral, etc. Et je pense qu'établir une cellule de réponse ne va pas être toujours facile si on veut répondre à bon escient, mais je pense qu'il faut se diriger vers ça. Merci encore.
Attendez, vous attendez le micro. Oui, attendez, attendez le micro. Vous avez une belle voix. Mais...
Je ne suis qu'externe. Je voulais juste vous demander le concernant le vaccin H1N1. Est-ce que ça aurait pas pu faciliter le mouvement contre les vaccins, le fiasco qu'il y a eu il y a quelques années? Et où est-ce qu'on en était par rapport à ce vaccin? Est-ce qu'il était recommandé pour des populations particulières ou pas?
Vous voulez savoir si l'odyssée du vaccin anti-H1N1 a eu un effet négatif terrible, parce que ça a popularisé la notion de gaspillage de vaccins qui avaient été achetés et qui finalement n'avaient pas été utilisés. Ça a été un des éléments qui a accéléré une défiance vis-à-vis de la vaccination et vis-à-vis des politiques. Donc je pense que ça, effectivement, c'est un événement français qui a joué un rôle très très négatif. Mais je voulais ajouter quelque chose sur les difficultés de la communication. En fait, actuellement, il y a aussi une transformation du marché de l'industrie de la santé. Récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a expliqué qu'il ne faut plus considérer les patients comme des patients, mais comme des clients. Qui est actuellement un marché mondial où il faut que les médicaments et pourquoi pas les vaccins répondent à la demande du consommateur. Dit comme ça, ça apparaît absolument insupportable, mais en y réfléchissant bien, ça représente, je suppose, une vraie préoccupation des gestionnaires des biens de santé, à savoir, pour qu'ils soient consommés, il faut qu'ils répondent à l'attente de la population. Et donc, quelque part, la communication doit à la fois être sincère et honnête et répondre à une sensibilité, à une demande. Et c'est là, franchement, un enjeu difficile.
La seconde partie de votre question sur l'évolution du vaccin antigrippal. Le vaccin antigrippal est un relativement mauvais vaccin puisqu'il protège de façon seulement partielle et de façon variable d'une année sur l'autre, en raison de l'extraordinaire capacité de mutation, de variabilité des souches virales qui sont très différentes d'une année sur l'autre et une immunité insuffisante dans la durée. Donc il y a un énorme travail de recherche en cours pour aller vers une solution qui est probablement envisageable, même si elle n'est pas atteinte aujourd'hui, c'est l'obtention d'un vaccin universel antigrippal, qui sera une grande avancée. Je pense que vous verrez, est-ce que je le verrai moi, j'en suis moins sûr, mais vous verrez, l'avènement de ce vaccin, parce qu'il y a des pistes, disons, assez fondamentales en immunologie qui laissent penser qu'on doit pouvoir y arriver.
Et vous voyez bien que là, il faut faire, quelque part, un acte de croyance dans l'avenir.
Elle est dure avec moi, là. À 21h30, juste, on a le droit de parier un tout petit peu. J'aime bien parier, mais je reconnais que ce n'est pas une position strictement scientifique. Mais il y a quand même quelques fondements à cette affirmation.
Bonsoir. Je suis externe aussi et j'avais simplement une question pour vous demander si cette concertation que vous avez dirigée avait envisagé aussi de rendre obligatoire simplement l'hexavalent, les six valents. Est-ce que ce serait, à défaut d'être scientifiquement pertinent, ce ne serait pas plus facilement acceptable et de loin par rapport à 11 valences?
Alors, c'est intéressant parce que certaines personnes du ministère de la Santé, de l'entourage de la ministre, ont posé la même question que vous. Et ce que nous pensons, c'est que ce n'est pas une bonne idée. Enfin, il y a une idée de base qui est évidemment intéressante, c'est simplifier et améliorer l'acceptabilité de la mesure. Mais on risque de recréer la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on aurait d'un côté 6 valences obligatoires et de l'autre 5 qui ne le seraient pas, qui seraient simplement recommandées, alors que ces 5 autres sont tout aussi importantes que les 6. Donc en termes de rationnel in fine de compréhension par la population de cette politique vaccinale, il nous a semblé que cela n'était pas raisonnable, ce d'autant qu'ils sont vraiment importants, ces vaccins, et on a envie de voir une couverture s'améliorer pour le méningocoque dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple.
Nicolas, le Conseil d'État.
Bonsoir. Parmi les facteurs d'une bonne couverture vaccinale, vous avez mentionné l'existence d'un régime d'indemnisation des effets indésirables. C'est un régime à deux étages, en quelque sorte, puisque c'est l'ONIAM qui assure cette indemnisation. Mais en cas de refus de l'ONIAM, il peut y avoir un contentieux qui est tranché définitivement en dernier recours par le juge administratif. L'administration de l'ONIAM et le juge ne sont pas des scientifiques. Ils sont obligés de se prononcer sur l'imputabilité à la vaccination de divers troubles, généralement sur des bases scientifiques et d'expertise solides, mais parfois dans un contexte de grande incertitude, voire de polémique scientifique. Et le juge administratif est parfois allé assez loin en prenant des décisions audacieuses, voire osées, au regard de l'absence de consensus scientifique. Alors, quand l'ONIAM et le juge acceptent un peu trop largement d'indemniser certains troubles, donc de reconnaître ces troubles comme imputables à la vaccination, ça a deux effets possibles. D'abord, ça accrédite peut-être la défiance à l'égard du vaccin, parce que ça accroît la suspicion. Et en même temps, ça peut rassurer en garantissant que l'État est bien là pour couvrir tous les types de risques, même ceux qu'on ne peut pas avec certitude imputer à la vaccination. Alors, est-ce que vous êtes en mesure de porter une appréciation sur la balance des effets? Est-ce qu'il vaut mieux, à votre avis, que le système soit un peu trop généreux, ou est-ce qu'il vaudrait mieux qu'il soit un peu plus rigoureux, voire un peu trop sévère?
La question la plus difficile a été la dernière, si j'ai bien compris, ou presque. Nous avons beaucoup tourné autour de cette question, et de fait, nous avons identifié comme un des facteurs qui participent dans une certaine mesure de la défiance à l'égard de la vaccination, le fait que de temps en temps, des juges ont pris des décisions, ça c'est pas l'ONIAM, d'indemnisation de personnes qui ont développé une sclérose en plaques au décours d'une vaccination contre la grippe, donc contre l'hépatite B, excusez-moi, accréditant l'idée qu'il y a un lien de cause à effet. Donc si les juges pensent qu'il y a un lien de cause à effet, c'est que ce lien de cause à effet doit exister, donc pas de fumée sans feu. Alors que les évidences scientifiques, pas remettre en cause un jugement, mais enfin, les évidences scientifiques n'existent pas. Je dis bien n'existent pas. Il y a 8 études publiées, c'est l'avis de l'OMS. Encore une fois, en disant cela, je ne dis pas qu'il n'existe pas de lien. Nous n'avons aucune évidence de lien existant, ce qui n'est pas tout à fait la même chose de dire les choses. Mais donc, c'est très délicat de répondre, parce qu'en même temps, il faut proposer, il y a de réels accidents, il faut qu'ils soient indemnisés dans un contexte, même s'il n'y avait pas d'obligation, mais a fortiori s'il y a une obligation. Donc, il faut trouver un compromis entre les deux, qui sans doute doit accepter d'aller un tout petit peu au-delà de ce qui est strictement prouvé, mais ne pas aller trop loin dans l'autre sens et s'écarter trop des évidences scientifiques, parce qu'elle deviendrait contre-productive et d'une certaine façon injuste. Après tout, pourquoi pas indemniser toutes les personnes qui développent une sclérose en plaques dans ces conditions, vaccin ou pas? Je pousse à l'extrême le raisonnement. Mais je n'ai pas une bonne réponse à votre question. Peut-être Anne-Marie a une meilleure réponse.
Non, bah, autant il est relativement facile de prouver qu'il y a un lien, autant il est extrêmement difficile de prouver catégoriquement qu'il n'y en a pas. Et je pense que du même coup, les juges ont été très variables dans leur estimation du principe que le doute, finalement, doit bénéficier à la personne dans la mesure où elle a subi un dommage ou elle a subi une souffrance. Alors, la variabilité de l'indemnisation de cette souffrance ouvre évidemment la porte à toutes les revendications et crée un climat d'incertitude.
Bien. Alors, nous arrêtons. On a déjà dépassé l'heure. Pas trop, ça va. Bien, merci infiniment à Madame Boulin, à l'afficheur, pour avoir animé cette soirée de leur connaissance et de leur réflexion sur la vaccination. Alain a défendu brillamment sa concertation citoyenne, malgré les méchancetés que le journal Le Monde lui a écrites. Merci d'être venu. Et la prochaine réunion, sera une réunion sur la neuropsychiatrie, qui aura lieu à la rentrée.
C'est le prochain programme, oui.
C'est le prochain programme. On ne peut pas parler de ce qui se passe à la rentrée.
Ah, on ne peut pas. C'est un colloque sur neurosciences et psychiatrie le 7 octobre 2017. Puis on aura un autre cycle de conférences un peu du même type. Vous voyez bien, c'est des conférences citoyennes pour favoriser la citoyenneté à la fois scientifique, prendre en compte les croyances des gens, parce qu'on ne fait rien sans les croyances des gens, et il faut les travailler. Alors on espère que le débat public de ce soir aide non seulement à apporter des informations scientifiques, et en même temps à travailler les croyances, parce qu'on ne peut rien faire sans ça. En tout cas, un très très grand merci.
Ah, faut que je récupère ma clé.